vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde en fait,
tout le monde a une Rolex, hein. C'est à 50 ans la première.
Quand j'entends le mot culture, déclare Baldo von Girard, je sors mon revolver.
Nous appartenons tous à la même planète.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur.
Nous appartenons tous à la communauté des hommes.
Bienvenue chez Bass.
20h, 22h sur Europe 1.
Yes, we can.
Pierre-Louis Bass.
Bien le bonsoir, 20h, il est donc grand temps d'éteindre la télévision pour ce qu'il y a à voir. Et on monte le son de la radio, figurez-vous qu'il n'y a pas que la guerre, il y a aussi de magnifiques romans d'espionnage, des fictions qui non seulement épousent la réalité mais la dépassent. Nous allons ce soir, durant près d'une heure, nous intéresser à Renault et à cette extraordinaire fable qui s'est abattue sur la tête de trois salariés, trois cadres de Renault avant que la direction ne s'aperçoive qu'elle s'était peut-être trompée de cible. Comment une telle manipulation est possible? Pourquoi faut-il qu'un ancien militaire soit forcément plus crédible que trois salariés qui font leur boulot? Quel type de responsabilité doit endosser le grand Manitou de Renault? Voilà les quelques questions que nous avons envie de nous poser avec des cerveaux, je vous le dis tout de suite, à la fois du fait divers et de la sécurité et de la façon de manager les hommes et de l'histoire également. Premier donc rendez-vous dans Bienvenue jusqu'à 21h. 9h-5 et 21h25, le live du soir. Ava est venu. Ava est la réunion de deux voix, Jérémy et Dimitri. Bienvenue à la pop et au mystère des mélodies de Ava. 21h05, la classe dans Bienvenue ce soir. Isabelle Might, petite fille du créateur de la célèbre Fondation Mike, nous parlera de Miro, mais c'est un Miro sculpteur que nous allons découvrir grâce au musée Mayol. 21h15, ma bonne humeur du soir, à la fois la colère, la réflexion, un nom tranché à toutes sortes de servitudes volontaires. Edoui Plenel publie Le Président de Trop chez Don Quichotte, plusieurs années d'articles au long cours et surtout une splendide piqûre de rappel sur ce que doit demeurer notre métier de journaliste. 21h35, elle fut prix Goncourt il y a quelques années. Pascal Rose nous revient avec deux destins terribles et croisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux frères séparés, Jean l'homme libre et impuissant, Paul, le prisonnier qui rêve d'évasion, c'est superbe. Enfin, vers 10h moins le quart, sera l'histoire du printemps, l'histoire du soir. Nous avons vécu aujourd'hui le premier jour du printemps et mon Dieu, cela se fête. J'accueillerai mon camarade Laurent Cabrol et Emmanuel Leroy-Ladurie qui en connaît un bout. Question climat. Toute l'équipe de Bienvenue vous salue bien. Nicolas Caro à l'info, Déborah Selam, Édouard Saint-Etienne et Marc Fréjean à la réalisation avec Alain Thierry. À tout de suite.
Europe 1,
20h-22h,
du lundi au jeudi,
faut quand même pas déconner.
Bienvenue chez Bass.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard s'en élever, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras. Pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, aux armes, etc.
Qui sait si les trois cadres de Renault ne balbutiaient pas un peu cet air auquel vous êtes habitué maintenant, qui est en quelque sorte notre hymne. Mélisse Mel qui est venue chanter ici et qui reviendra nous voir. Et nous avions trouvé que cette voix était... est très trop belle pour la mettre de côté. Je salue Nicolas Arpagian, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas, vous êtes rédacteur en chef de la revue Prospective Stratégique et auteur du Que sais-je, la cybersécurité chez PUF. Autant dire que Bienvenue ce soir vous tend les bras. Bonsoir Eric Delbecq.
Bonsoir.
Vous êtes chef du département sécurité en économie de l'Institut National des Hautes Études, de la sécurité et de la justice. Vous avez préfacé Capitalisme financier et sécurité économique. C'est chez Vuibert. Je salue Frédéric Ploquin, bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Mon confrère en charge de l'investissement spécialisée dans les milieux de la police, toujours à Marianne, Frédéric,
hein,
du banditisme et du renseignement, auteur de La prison des caïds, c'est chez Plomb. Je salue Bernard Vivier, bonsoir.
Bonsoir.
Tout sauf un caïd, simplement directeur de l'Institut supérieur, un caïd dans son domaine, directeur de l'Institut supérieur du travail et expert des relations sociales et syndicales. Bruno Fulini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, écrivain, vous êtes venu nous voir à plusieurs reprises, La police des écrivains chez Auray. Vous avez travaillé également avec Ryu sur les grandes affaires secrètes. Et donc, votre place ce soir est forcément naturelle. Je résume, mais c'est toujours un peu bébête de résumer. 3 janvier, Renault informe Michel Balthazar, Bertrand Rochette et Mathieu Tenenbaum des soupçons qui pèsent sur eux. Très vite, la machine s'emballe. Bref, Frédéric Ploquin, peut-être parce que vous êtes habitué surtout à ce qui saigne. Là, c'est une autre forme de saignement. Hein. C'est l'âme, parce que quand on perd son boulot, comment c'est possible, ça ? Comment c'est possible
d'en arriver là? On commence à comprendre simplement aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est globalement une histoire à plus cadabrantesque. C'est quelque chose qui d'ailleurs va causer énormément de tort à un sujet sérieux qui est l'intelligence économique. Et finalement, les dégâts sont considérables pour tout le monde, mais pas seulement pour Renault, pas seulement pour ces trois garçons qui sont retrouvés comme ça au banc des accusés. Je crois qu'il y a quand même si on remonte un peu en arrière, il y a un souci dans l'énorme, tout commence dans l'énorme proximité entre le PDG de Renault, Carlos Ghosn, et ses super espions, ses agents sécurité qui l'entourent. Je crois que c'est là que ça démarre. Et si on fait la genèse, on se rend compte que quand il était au Japon, quand il a pris la tête de Nissan, parce qu'il avait les PDG de Renault et de Nissan, quand il était au Japon, il a eu peur, probablement des déstabilisations, de l'espionnage, des choses comme ça. Et me dit-on aussi, m'a-t-on dit, des fameux yakuza, c'est-à-dire la mafia en gros japonaise. Il a eu peur et il a eu besoin de s'entourer de gens qui le conseillaient, qui le protégeaient.
C'était comme ça. La Chine dans un premier temps qui était dans le collimateur.
Moment où l'affaire sort. Ça c'est le gros fantasme effectivement. Mais juste, je continue un peu le déroulé. Ça démarre comme ça. Il se rapproche donc à l'époque à Tokyo du patron de l'antenne de la DGSE. Ils deviennent très amis, trop amis. Et je crois que c'est la source de tous les problèmes. C'est-à-dire que quand on a un souci, qu'on est PDG, et qu'on fait appel à un type qui est dans le bureau d'à côté, mais qui est surtout très 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 proche du PDG, et qu'il n'y a pas de distance avec vous, vous vous retrouvez embarqué dans une histoire, ils se retrouvent embarqués, je crois, ensemble dans cette histoire, et ni l'un ni l'autre n'est plus capable d'arrêter, vous voyez, il n'y a plus de filtre.
Ouais.
Et c'est pour ça que la principale question de l'affaire, c'est pourquoi, quand ils ont eu des doutes sur leurs salariés, pourquoi, quand ils se sont trouvés avec leurs lettres, les fameuses lettres anonymes, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement allés voir le ministère de l'Intérieur? Il y a un service spécialisé qui s'appelle la Direction Centrale du renseignement intérieur, qui travaille, qui a des spécialistes de l'intelligence économique, qui auraient pu traiter l'affaire. Et au lieu de ça, je crois que ça fait peur encore aux entreprises françaises. Ils se sont dit, si on en parle au ministère de l'Intérieur, ça va sortir, ça va nous retomber sur la gueule, ça va faire la une des journaux, c'est pas bon pour nous. Donc on gère ça en interne et ça leur pète encore plus à la figure.
Je me tourne tout de suite vers Nicolas Arpajian et Eric Delbecq. Est-ce que ça veut dire que, un peu comme en Formule 1, quand une voiture va dans le mur aujourd'hui, en tout cas c'est plus compliqué qu'il y a quelques années, il y a des protections là quand un truc est lancé, il n'y a pas des pneus pour protéger, il n'y a pas des, voyez, on va aller jusqu'au bout du machin, on peut pas se protéger par d'autres sources plus fiables, on y va franco jusqu'au moment où on s'aperçoit que c'est une immense manip et une grande fiction.
Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est le fait que vu l'ampleur de ce qui était reproché, on a parlé d'investissement dans le domaine des batteries à 4 milliards d'euros, c'est d'avoir appliqué le code du travail. C'est-à-dire qu'on était en entretien préalable de licenciement, exactement comme s'ils avaient été surpris en dormant, en faisant la sieste au bureau, ou au contraire en ayant volé 3 gommes. C'est-à-dire que déjà, le fait même qu'on ait utilisé ce code du travail, c'est déjà aberrant. La deuxième chose, c'est effectivement la discrétion. Cette obsession d'être jugé par une défaillance interne et le fait de dire celui qui faillit, celui qui se trompe, est forcément sa rejet. Ça se retombe sur toute l'entreprise. Je prends un contre-exemple récent parce que je trouve avec une initiative qui a été intéressante, qui est celle de l'agence gouvernementale sur les systèmes d'information. Lorsque Bercy a été attaqué il y a quelques jours, l'assaillant n'a pas communiqué. C'est la victime qui a communiqué. Et donc on s'aperçoit que, moi je pense que c'est une bonne chose quand la victime, de manière assumée, relativement saine, distanciée, est capable de dire « voilà, j'ai été attaqué ». Je peux essayer de corriger et de me redresser. Mais en tout cas, l'espèce de bricolage juridique et humain qui a été mis en place est totalement incompréhensible.
C'est de l'amateurisme.
C'est de l'amateurisme.
Nicolas Arpajian, Eric Delbecq.
Oui, moi je crois qu'il n'y a pas de glissière de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un grand amateurisme encore dans les groupes du point de vue de la sûreté. Et donc, c'est un petit peu à la va comme je te pousse. Et de surcroît, il y a tous les éléments là d'un
mauvais roman. Et en même temps, on est parano. En même temps, il faut une parano.
Ah oui. Alors justement, on n'est pas tellement dans la sûreté, la prévention, l'anticipation du risque, mais on est gravement dans la parano, hein, pour parler comme les jeunes. Il y a premièrement l'élément qui aujourd'hui est vraiment le bon truc dans toute histoire d'espionnage. Il faut un Chinois.
Ouais.
Voilà. Et alors là, tout de suite, on nous a dit, on a les Chinois, il n'y a pas de problème, ça c'est bon. Alors, à la décharge des services sûreté dans les entreprises, il y a aujourd'hui l'espionnage industriel. Il n'y a pas d'ailleurs que les Chinois, il y aurait bien d'autres nations. Mais au départ, il y a quelque chose qui n'est pas complètement fantasmagorique. Ça peut être crédible. Ouais. Bon.
Alors, les vrais espions, Frédéric a raison, vont s'engouffrer dans la faille.
Ah bah oui, c'est...
Moi, je serais effectivement un espion chinois.
C'est maintenant.
Je choisirais ce jour aujourd'hui pour attaquer Renault.
C'est aujourd'hui.
C'est maintenant. Ils sont en situation de faiblesse. Totale.
C'est maintenant. Donc il y a un tissu de choses crédibles. Et puis après, effectivement, il y a un grand amateurisme. Et ça va au-delà du cadre Renault dans l'ensemble des groupes, globalement, sur la matière sûreté, qui est vue de manière extrêmement, extrêmement... Ouais, je pense qu'il faut le dire, romanesque.
Ouais. Voilà. Oui, c'est le terme que j'ai employé pour titrer l'émission. On a le temps, on a près d'une heure. Hein. Je voudrais tout de suite prendre au téléphone, avant une pause, Thibaut de Montbrial. Bonsoir, monsieur de Montbrial.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocat de Mathieu Tenenbaum, donc l'un des trois salariés qui ont été dans le collimateur et qui sont, bien sûr, plus que jamais innocentés. Dans quel état d'esprit aujourd'hui, dans ce qu'on appelle nous un roman, se trouve votre client? Est-ce qu'il est totalement libéré, et il se dit je suis à la cool, enfin les choses sont claires, ou est-ce qu'il est dans la rage et qu'il a envie d'aller quand même plus loin encore?
Écoutez, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Mathieu Tenenbaum est dans la situation de celui dont la vie se déroulait parfaitement bien et qui s'est pris un mur, mais d'une seconde à l'autre et sans comprendre du tout ce qui lui arrivait. Donc pendant 2 mois et demi, 3 mois, ça a été un cauchemar absolu. Il a même eu peur que, devant l'acharnement de la société Renault et ses certitudes affichées, il a même eu peur qu'on lui sorte des faux comptes, hein, puisqu'il a nié depuis la première minute être titulaire du moins de comptes à l'étranger, mais il a cru que des faux comptes allaient sortir. Donc il a été...
Que les Chinois auraient alimenté.
Oui, on va y revenir aux Chinois, parce qu'il y a des choses à dire. Mais vous me parlez de son état d'esprit. Il est à la fois soulagé, il a un soulagement total d'avoir été mis hors de cause, d'abord par le parquet, hein, de la semaine dernière, puis ensuite un peu contraint par la société Renault. Il est en train de récupérer, il est encore un peu groggy, donc il est partagé entre divers sentiments, mais c'est vrai qu'il va lui falloir un tout petit peu de temps pour se remettre de la violence de ce qui lui est arrivé.
Bien sûr, vous restez avec nous, Thibaut de Montbrial. Une pause et on se retrouve dans ce magnifique roman à la John Le Carré. A tout de suite.
Pierre-Louis Basse sur Europe 1.
De 20h à 22h, bienvenue chez Basse.
Le grand roman noir, en effet, de Renault. Là, on est loin de la voiture électrique qui doit séduire dans les prochaines années, avec Bernard Vivier, Bruno Fuligny, Éric Delbecq, Nicolas Arpagian et Frédéric Ploquin. Dites-moi, Bernard Vivier, il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années qui s'appelle Le Procès, Der Prozess, de Franz Kafka, qui commence un peu comme ça. Oh, vous êtes libre, hein, vous inquiétez pas, Joseph, mais on vous arrête. Mais vous êtes libre, hein. Et plus tard, il écrira cette phrase magique, c'est l'accusateur qui rend coupable. Ce qui est quand même magnifique, hein, c'est le procès de Moscou. Bon, on y est là. Comment une entreprise peut-elle foncer dans un billet en tête, dans un...
Mais pour une raison bien simple, c'est qu'une entreprise est un système vivant, et comme toute structure vivante, comme toute société, peut commettre d'immenses et très graves erreurs. La police fait des erreurs, la justice fait des erreurs. Elles sont pourtant composées de personnes de grande qualité. Et là, Renault a fait une erreur. Il faut se remettre, ça vient d'être dit, il faut se remettre dans le contexte. Renault est effectivement dans une compétition très dure. Renault est en train d'investir 4 milliards d'euros pour la voiture électrique.
Oui, c'est énorme.
Son objectif, c'est être leader en 2020. En moins de 10 ans, il veut être leader mondial. Donc on sent bien que les pressions, la concurrence, elle est redoutable. Et donc, les dirigeants de Renault, qui sont beaucoup des financiers, beaucoup des ingénieurs, et peu au fond, on le voit aussi chez France Télécom ou dans d'autres entreprises, des personnes soucieuses de la vie sociale, de la confiance entre les personnes, fonctionnent sur le registre de la méfiance. Et c'est ça qui détruit finalement l'entreprise et qui fait que les salariés, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais que les salariés aujourd'hui, ils sont d'une part inquiets, comme tous les salariés, ceux de Renault tout particulièrement, parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a les salaires qui ne suivent pas, mais ils sont surtout, et c'est ça qui est plus grave, méfiants.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, je me permets de creuser un peu Bernard, hein, Vivier, aujourd'hui, je peux parler de mode, mais un comportement du point de vue managérial qui est assez étonnant. Je veux dire que les digues ont sauté. Je ne dis pas que c'était, bien sûr, c'était très sérieux. Ils avaient sans doute les preuves, ils l'ont dit. Mais on vire comme patao sur la galette, hein, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On vous sourit le lundi et le mardi, t'as des affaires dehors.
Mais effectivement, et avec
il y a une facilité, un turnover.
En utilisant le code du travail, ça a été dit comme si on avait volé trois gommes et que c'était. Il n'y a pas le contradictoire, il n'y a pas le discernement. Il n'y a pas eu, à l'évidence, le DRH, le directeur des ressources humaines, qui a pu faire son travail, ou qui aurait dû faire son travail de contradictoire. Il y a quelque chose d'ailleurs de très, très curieux que les spécialistes du renseignement ont vu. Des dirigeants d'entreprises aussi haut placés, depuis si longtemps, accusés. Un vrai espion, il ne va pas instrumentaliser des personnes qui ont donné toute leur vie et leur carrière à l'entreprise. Mais ça, ça a été dit par les spécialistes du renseignement.
Frédéric Ploquin.
Je crois qu'on va mettre du temps en France à considérer que ces affaires d'espionnage sont des affaires sérieuses. Mais il faut raconter d'où on vient. On vient d'une époque où finalement les entreprises françaises s'en foutaient totalement de savoir. Parce qu'en fait, elles n'étaient pas conscientes, les PDG n'étaient pas conscients des dangers qu'ils couraient. Alors on s'est mis alors à les bassiner, à leur répéter, à leur envoyer le ministère de l'Intérieur, la DGSE, tous ces gens-là ont délégué auprès d'eux des gens qui les ont sensibilisés. Et là, j'ai l'impression qu'on est tombé dans un truc à l'inverse, c'est-à-dire que d'une période où ils ne savaient rien, on arrive à une période où ils croient tout savoir.
Et Vous êtes en train de nous dire que espion, c'est un métier d'avenir, finalement.
Je suis en train de dire que...
Le serpent...
Oui, certainement, mais qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, quand on a mis... dans l'affaire Clearstream, c'est quoi? C'est un espion qu'on met entre les mains d'un politique. Là, on met un espion sur les genoux d'un PDG, et je crois qu'on va dans le mur. C'est-à-dire que la trop grande proximité, c'est ça que je veux dire, fait qu'ils vont dans le mur. Mais ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'on est arrivé à une période où il y a une espèce de... ils n'ont pas de recul. Et c'est absolument pas de recul par rapport à ces affaires. Et du coup, là, ils ont géré ça comme si un peu en famille, quoi. Voilà, un peu entre eux, mais par manque de connaissances, par méconnaissance du sujet.
Bruno Fulini, justement, il va en prendre du recul, il est historien. Il nous dira un petit peu ce qui s'est déjà joué. Il y a des milliers d'affaires dont on parle peu. Vous vouliez intervenir peut-être, Eric Delbecq, Nicolas Arpadjian.
Il n'y a pas de process qui soit bien rodé sur ces questions aujourd'hui dans l'entreprise. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir le profil des gens qu'il peut y avoir dans ces services de sécurité. Il y a effectivement un certain nombre d'anciens membres du renseignement ou plus classiquement de services de police, d'anciens militaires. Mais ce ne sont pas des gens qui sont spontanément préparés au monde de l'entreprise, ni à ses procédures, ni au fait qu'effectivement, un salarié, il faut d'abord se préoccuper de la manière dont on va regarder sa vie privée, de la manière dont on va assurer la traçabilité. En gros, est-ce qu'on a des preuves solides? Est-ce qu'on n'attend pas sa réputation de manière un peu légère? Les gens qui bénéficient de par leur passé de certaines méthodes, et j'allais dire de manière normale dans leur ancien boulot, c'est comme ça qu'on procédait dans l'entreprise, on ne peut pas faire de la même manière. Et souvent, c'est parce que l'entreprise elle-même a été très lente à s'approprier les questions de sécurité, d'intelligence économique, de gestion de crise, etc., etc., qu'aujourd'hui, on est confronté à cela. Et vu qu'on est dans un contexte qui, lui, est particulièrement anxiogène, où la compétition est particulièrement dure, oui, on est en période de guerre économique, il faut courir après l'événement, et donc on fait tout un petit peu dans la confusion, et ça produit ce genre de désastre.
J'aurais une dernière question à poser à Thibault de Montbrial, avant qu'il nous laisse, mais encore vous deux, là, parce que vous êtes les cerveaux de la haute sécurité, franchement, aujourd'hui, c'est très paradoxal, espionnage, secret, tout se voit aujourd'hui, tout est su.
Alors, en tout cas, quand...
c'est vrai ou c'est pas vrai?
Alors, quand vous avez dit tout à l'heure, est-ce que l'espion c'est un métier d'avenir? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que tout un chacun dans des organisations détient de l'information qui peut avoir une valeur à l'extérieur. Si on prend l'exemple de WikiLeaks, c'est un soldat de deuxième classe qui a fourni l'information et il avait accès à cette information dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, tout peu gradé qu'il était. Ce qui veut dire par là, c'est que effectivement, dans les organisations humaines, entreprises, collectivités, États, on va se retrouver avec des individus qui ne sont pas justement espions au sens où on les avait répertoriés, formés pour cela. Simplement, ils vont être amenés à un moment à extraire de l'information. Et c'est bien la protection du patrimoine de l'entreprise ou de la collectivité, quelle qu'elle soit, qui va devenir un véritable enjeu. Et qu'il va falloir s'appuyer sur deux pieds. Un pied technique, parce qu'il faut des solutions techniques, ça reste quand même nécessaire. C'est pas suffisant, parce que le deuxième pilier, il est humain. Mmh. Et vous pouvez mettre en place le meilleur des systèmes de sécurité, le plus grand nombre de verrous à la porte de ce studio, si consensuellement, tous ensemble, on décide de mettre une chaise pour laisser la porte entrouverte, la belle politique de sécurité ne sert à rien.
Ah, dès qu'il y en a un qui va déjeuner à RTL, c'est su dans la journée. Hein.
Exactement, c'est l'avantage.
Je l'annonce, hein, dès qu'on va à Rue Bayard ou à la Maison Ronde, dans la journée, c'est su. Même avant, je voudrais, avant qu'il nous quitte, Thibault de Montbrial, qu'il nous dise, là, c'est un côté un peu psychologique. Votre client a toujours, a toujours pensé que ça allait se terminer, que ça allait bien se terminer, cette affaire.
Pas du tout.
Pas
du tout. Pendant plusieurs semaines, ce que je disais tout à l'heure, il a pensé qu'on allait fabriquer que des fausses preuves avaient été fabriquées devant la certitude et l'aplomb des dirigeants de Renault. Il a cru qu'il était parti au moins pour des mois, sinon des années d'un dur combat. Et il a cru qu'il allait être obligé non seulement de faire la preuve de son innocence par le vide, c'est-à-dire par l'absence de compte, mais peut-être même d'être obligé de se battre contre l'apparition de fausses preuves. Si vous permettez, avant de vous quitter, moi, il y a une petite chose que j'aimerais dire, puisqu'il se trouve que je suis un des avocats qui connaît un peu ces problématiques de renseignement et d'intelligence économique. Il y a deux choses qui m'ont particulièrement surprise dans ce dossier et qui m'ont autorisé parmi les premiers, dès la fin janvier, à publiquement évoquer l'hypothèse d'une manipulation. La première chose, c'est que, je crois que ça a été dit tout à l'heure par un des intervenants, mais je le redis pour mémoire, la direction du patrimoine de la DCRI, c'est-à-dire des services de contre-espionnage français, est équipée pour permettre aux sociétés françaises, dès qu'elles ont un doute, d'enquêter dans la discrétion, ce qui offre un avantage énorme. Si les soupçons deviennent des vérités, ça permet de faire tomber toute la filière, puisqu'on enquête en amont. Et si les soupçons finalement s'avèrent pas avérés, ça permet que les gens qui ont été soupçonnés ne le sachent pas et continuent à travailler pour la société. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que moi, ce qui m'a le plus sidéré, et là on est au confluent de l'intelligence économique et de la gouvernance d'entreprise, c'est que une fois rapporter leurs travaux ou leurs pseudo-travaux par le service de sécurité. Comment est-ce que la gouvernance de la société Renault, au plus haut niveau, a pu croire la fable qui lui était apportée sur un plateau? Et je vais vous laisser débattre entre spécialistes après.
Oui, parce que vous nous donnez caviar, là, parce que là, c'est...
Vous ne trouvez pas que la mariée est un peu belle d'apporter un réseau chinois qui, par le biais de 4 sociétés offshore, nous amène comme par hasard en Chine, avec le grand méchant chinois, mais qui est identifié parce qu'on sait, comme par hasard, d'où vient l'argent. Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu faire injure à nos amis, avec ou sans guillemets, chinois, de considérer que s'ils veulent espionner quiconque, ils vont partir, comme le petit Pousset, je disais, depuis la Chine, avec 3 sociétés offshore pour arriver jusqu'en Suisse. Oui. Autre chose en vrac, est-ce que quand on veut espionner une institution, quelle qu'elle soit, on prend non pas une personne, ce qui est déjà risqué parce que si jamais elle refuse, elle peut aller vous dénoncer auprès de son service de sécurité, mais 3, ce qui multiplie, ce qui fait que le risque est multiplié et au cube. C'est-à-dire puisque 3 fois 3, ça fait 9.
3, donc, c'est le triangle d'or, c'est la Chine.
Oui, c'est ça. Mais la mariée était un petit peu belle et je pense que les dirigeants de la société Renault, avant de se précipiter en avalant l'hameçon et la ligne, auraient pu quand même se poser certaines questions, parce que tout ça me paraît quand même très très gros et c'est apparu assez gros dès le début.
Oui, non, c'est pas de la petite ficelle, c'est de la corde de marin, donc vous êtes en train de nous expliquer. Merci infiniment et on va bien sûr continuer de débattre. Ce que vient de nous dire Thibault de Montbrial est quand même passionnant.
Il a soulevé un point qui est capital.
On en parlera d'ailleurs avec Bernard Vivier, oui.
Il a soulevé un point qui est capital, c'est celle de la collaboration entre les services officiels, en l'occurrence la DCRI, et les entreprises, parce que ça, c'est une collaboration aujourd'hui qui est totalement nécessaire et que ne peut pas compenser le fait d'intégrer au sein des services sûreté des entreprises des anciens du renseignement. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Justement, il doit y avoir une collaboration officielle entre des services officiels et des entreprises, mais pas une espèce de bricolage qui consisterait à dire on a des anciens des services, donc on a les techniques, sans le côté pénible du lien officiel. Et c'est ça qui, souvent, crée l'embrouille. Donc à partir de ce moment-là, on ne contrôle plus rien. Et alors après, sur le fait qu'effectivement, au plus haut niveau du management, on puisse avoir une très belle histoire, quand on a des dirigeants qui n'ont pas de culture préalable de cela, pourquoi est-ce qu'ils seraient dans la réticence? Je veux dire, quand on leur présente ce genre d'affaires, on leur présenterait un martien,
tout simplement aussi un peu seuls. Est-ce qu'il n'y a pas
seul.
Seul.
La solitude du chef.
Ça, on va en parler avec chef, hein. Oui, la solitude au plus haut niveau du chef.
Ils le sont dans un tas d'autres problématiques. Pourquoi est-ce que sur ce point-là, ils développent une naïveté supérieure à celle des autres domaines? Je pense pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Et deuxièmement, c'est que c'est vrai, il y a parfois un petit côté dans tout ça, peut-être... J'allais dire, on est un petit peu enfantin devant ça, c'est vraiment les belles histoires, c'est le roman, c'est l'espionnage, et on perd un peu des capacités élémentaires de raisonnement.
Frédéric Ploquin avant une pause, et ensuite Bruno, il va falloir y aller. Frédéric
Ploquin, PDG de Renault, vous décidez de mettre un espion dans votre moteur pour que ça fonctionne, vous le payez bien. À partir de là, est-ce que l'un de ses principaux objectifs ne va pas être d'être mieux payé à terme? Et est-ce que pour être mieux payé, il ne va pas falloir qu'il trouve de formidables affaires, histoires à vous servir? C'est quand même le danger. Quand vous intégrez le contre-espion à l'entreprise, à un moment donné, il va vouloir recruter ses amis. C'est ce qui s'est passé. Donc, ils sont deux, trois. Après, il fait venir un ancien copain de la DPSD, puis un ancien de la DGSE. Puis ils grossissent, mais à un moment donné, il faut prouver que c'est utile. Et est-ce que le risque pour prouver qu'ils sont utiles n'est pas, justement, c'est un peu là-dedans qu'apparemment on est, même si pour l'instant ils sont tous présumés innocents, mais est-ce que le risque n'est pas justement qu'à un moment donné, il y a une tentation de vous offrir une belle histoire pour être encore mieux vu, pour se rapprocher encore d'un étage, pour être à l'étage du PDG, pour grossir, pour faire...
Je vais quand même vous dire que ce que vous nous dites est absolument passionnant. Je suis sûr que de l'autre côté, ceux et celles qui nous écoutent se régalent. Mais il y a tout de même des choses, il faudrait que vous vous expliquiez, parce que c'est vous les cerveaux. Quand je lis que l'un des responsables au plus haut niveau de Renault, du point de vue de la collecte d'informations économiques et technologiques, nous dit que le 9 janvier, Renault est victime d'une filière organisée internationale. C'est le directeur général délégué du constructeur qui parle à ce moment-là. Ils ont bien des billes.
Aberrant. C'est d'autant plus aberrant que là, on ne parle que de communication interne, des choses en interne. La seule chose, et c'est là où je pense qu'on va atteindre le paroxysme, c'est quand la vision de Carlos Ghosn au journal de TF1 de 20h. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en plus, on n'a pas encore abouti la procédure, aucun élément n'est avéré autre que ce qu'ils ont par-devers eux. Et à ce moment-là, ils font l'espèce de coming out médiatique. C'est effectivement extrêmement périlleux.
Nicolas Arpadjian, la cybersécurité chez PUF. Les amis, on se retrouve après l'info. C'est promis. À tout de suite.
Europe 1.
Bienvenue chez Basse.
Culture Flash.
Bonsoir Nicolas Caro.
Bonsoir.
Jean Tellet, il a bien réussi. Hein. Il était chez nous pour son dernier livre. Le Montespan va être adapté.
Oui, Le Montespan, c'est le livre de Jean Tellet, tu l'as dit, qui raconte l'histoire du mari trompé de Madame de Montespan, favorite de Louis XIV. Un best-seller qui va être adapté à l'écran par Olivier Marchal. Le spécialiste du polar s'attaque donc au film historique. Et pour le rôle-titre, c'est Jean-Hugues Anglade qui a été choisi.
12 ans après sa mort, Kubrick est encore très présent.
La Cinémathèque à Paris lance après-demain une exposition consacrée au cinéaste, 1000 mètres carrés sur deux étages. Il s'agit d'un parcours chronologique sur les traces de son œuvre, affiches originales, scénarios, correspondances, photos de tournage, costumes, accessoires, maquettes, j'en passe. Une exposition très complète, en tout cas, c'est jusqu'au 31 juillet. Et puis les Inrock s'intéressent aussi au réalisateur d'Orange Mécanique. Un numéro spécial du magazine est en kiosque à partir d'aujourd'hui. 100 pages, analyses, entretiens et photos, tout sur Kubrick avec en plus le DVD de Lolita, l'adaptation du livre de Nabokov réalisé par Kubrick en 1962.
On connaît l'éditeur français du leader Maximo.
Selon l'Express, c'est Michel Lafon qui publiera les mémoires de Fidel Castro en France. Mémoires en deux tomes. Le premier s'appelle Les Chemins de la Victoire, qui couvre les années 1926-1959. Il sortira le 21 avril. 700 pages d'autobiographie. Le second tome de 1959. À nos jours est prévu pour octobre 2011.
Merci Nicolas Caro, à dans une heure.
À tout à l'heure.
Pierre-Louis Basse sur Europe 1.
C'est bienvenu chez Basse.
Oui, nous serons avec le philosophe Gilles Verviche. On lui posera une question très philosophique à propos de ce roman. Donc, nous retrouvons Bernard Vivier, Bruno Fulini, historien Éric Delbecq, Nicolas Arpadjian et Frédéric Ploquin. Bruno Fulini, quel regard vous portez? Vous avez écouté les uns les autres, hein, c'est le rôle de l'historien. Des affaires, vous en connaissez, aux petits oignons. Je vous avais reçu pour les grands secrets d'État. Quel regard vous portez sur cette affaire? C'est Bibi Fricotin? Non, c'est léger?
Non, il y a toutes sortes d'ingrédients, il y a des choses tout à fait classiques. À partir du moment où on a une interprétation univoque d'un certain nombre de phénomènes, on n'actionne pas toutes les techniques qui existent pour évaluer l'enseignement, pour croiser les sources, pour se demander si... on aboutit assez vite au scénario dans lequel un certain Dreyfus, Alfred, est convoqué un matin au ministère de la guerre, il ne sait pas pourquoi, on lui fait faire une dictée, on compare, on dit « Ah bah oui, c'est la même écriture que le bordereau qu'on a trouvé à l'ambassade d'Allemagne ». Et voilà, à partir du moment où on se fère sur une interprétation, il y a cette interprétation-là et puis rien d'autre. Or, le monde du renseignement, c'est le monde du faux-semblant, c'est le monde des jeux de miroir, de la complexité, et c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue.
Pour un historien... Mais tout part d'une lettre anonyme, finalement, Bruno Fellini.
Toujours.
Un type qui est peut-être complètement mytho, j'en sais rien, mais...
Mais on est dans le règne de la manipulation. Je veux dire, une lettre anonyme... Moi, je passe mon temps à ouvrir, en tant qu'historien, des dossiers remplis de lettres anonymes. Là, je viens
C'est vrai, oui. Les Français sont très forts là-dessus.
Bon, je ne pense pas qu'ils en aient le monopole, mais ils se défendent.
On balance bien.
Écoutez, moi, j'ai trouvé un petit dossier. Je me suis intéressé aux écrivains, par exemple. Mmh. Là, on est très loin de l'automobile, on est très loin des secteurs stratégiques, mais c'est important, l'influence. Et donc, les écrivains sont très surveillés depuis toujours, longtemps. J'ai trouvé un tout petit dossier sur le doux Jacques Prévert. Jacques Prévert. Ah. Bon, eh bien, il y a quelqu'un qui écrit, on l'a vu avec un Anglais qui est un officier de l'Intelligence Service. Et il y a une enquête. Il y a une enquête en 1947. On se demande si Jacques Prévert, par ailleurs membre du PCF, ne serait pas un agent des services secrets britanniques. Et je pourrais multiplier les exemples comme cela sur Jean-Paul Sartre ou sur d'autres. Donc il y a une surveillance. Il ne suffit pas, si vous voulez, d'une dénonciation ou d'une piste pour aboutir à une certitude. Et si on fait ça, on s'enferme. Le monde du renseignement est un monde paradoxal pour un historien. Dans n'importe quelle autre profession, ce sont les gens qui sont très forts qui deviennent célèbres. Ouais. Dans le monde du renseignement, on ne connaît que ceux qui ont raté, hein, qui se sont fait prendre, les mauvais, ou alors les innocents.
Dites-moi, les anarchistes russes du début du siècle dernier avaient pour principe de dire un petit groupe très bien organisé peut faire beaucoup de bobos. Bon, le type, il est peut-être tout seul, là, l'ancien militaire là, qui est en cabane maintenant. On peut imaginer ça ? Qu'il a fait son machin tout seul dans son coin et qu'il a envoyé une lettre anonyme.
Ils sont au moins deux, apparemment.
Enfin, au moins deux,
Il y a au moins quelqu'un qui marche dans la commune, qui n'est pas forcément complice complet, mais qui marche dans la commune avec lui, puisqu'il y a des manipulations financières.
Oui.
Parce qu'il ne faut pas, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais quand même, l'argent, ça a l'air d'être le moteur de cette histoire. C'est-à-dire que si on, au bout du compte, on découvre qu'il s'agit véritablement d'une escroquerie, l'idée, c'était de piquer le maximum de pognon à Renault. C'est quand même ça. Ouais. Mais il y a d'autres dangers derrière qu'on n'a pas encore bien perçus, je trouve. Et je crois qu'il faut le dire. C'est qu'à partir du moment où on met ce genre de personnage dans l'entreprise, on court aussi le risque. Je veux dire, moi, j'ai connu une histoire. C'était un PDG qui, à un moment donné, avait dans le bureau d'à côté, comme ça, un type qui était censé l'aider à détecter les espions. Et un jour, il s'est dit, tiens, je vais lui demander de surveiller ma femme. Et il a demandé à ce type de lui rendre un service privé et d'aller suivre sa femme pour voir ce qu'elle faisait pendant
la
journée.
Impossible à surveiller.
Imaginez ce qui se passe. Après, le lien qui se crée entre le PDG et ce bonhomme qui travaille dans le bureau d'à côté. Il le tient. Et où ça peut aller? Et moi, je pense que le principal danger derrière, ça va être un jour, on va découvrir que des syndicalistes ont été mis sous écoutes téléphoniques, que des gens ont été... À un moment donné, tout peut basculer. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui ont tous les pouvoirs, tous les moyens, qui ont été formés dans les plus grands services secrets et qui débarquent comme ça dans l'entreprise, ils ne connaissent pas d'autres méthodes que celle-là. Les filatures, les écoutes téléphoniques, les pièges, la manipulation. Et donc, ça peut faire basculer complètement l'entreprise. Et je crois que c'est ce qui arrive, malheureusement, à cette entreprise semi-publique qui est Renault, qui était quand même un des fleurons qui reste, d'ailleurs,
alors,
de l'industrie française.
Je vous le rappelle tout de même, puisque c'est une info de nos camarades d'Europe. J'aperçois Alain Coquella qui va me le confirmer. C'est que Dominique Jeuvret, qui est donc à Londres là, actuellement, c'est une procédure de licenciement assez unique. On va le sortir des violons et puis on va lui.
Je crois que la décence là de Renault aurait consisté à attendre un petit peu, au moins qu'on soit sûr, complètement sûr, parce qu'il a un avocat qui va se défendre, qu'il est pour l'instant simplement mis en examen et pas encore condamné. Et je crois que là, on a l'impression
qu'il va avoir un dernier entretien.
Non, mais ils l'ont fait avec les trois cadres et maintenant ils le font avec lui. Peut-être que dans 6 mois on va découvrir je ne sais quoi et qu'on va dire merde, on est obligé de le récupérer.
Mais manifestement ils vont le faire sur place. Tout de même, ils n'iront pas au parloir.
Qu'ils n'apprennent rien. Je veux dire, on a l'impression que cette entreprise n'apprend rien.
C'est la juxtaposition de la procédure pénale et du code du travail. C'est-à-dire effectivement qu'il y a ces exigences de délai. Je parlais tout à l'heure de l'entretien préalable de licenciement, enfin j'ai la version contradictoire.
Nicolas Arpagian.
Voilà, et la difficulté c'est d'essayer de jouer les deux tableaux. En plus le pénal tient le civil en l'état, donc de toute façon faire qu'on va suspendre la procédure prud'homale, mais je pense qu'on continue un peu dans le bricolage, c'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi peut-être de clore le sujet et d'arriver, voilà, de tourner la page. Simplement la seule chose c'est que le temps judiciaire n'est pas le temps des médias et que le fait de vouloir à tout prix essayer de faire rentrer l'un dans l'autre se fera évidemment au prix de concessions, mais justement au respect des procédures et puis aussi, j'allais dire au bon goût, parce que la difficulté c'est le ridicule certes ne tue pas, mais à la fin va quand même finir par affaiblir Renault.
Il abîme tout de même un petit peu et ce sera la dernière partie de notre émission justement pendant un quart d'heure. Thibault de Montbrial vous a donné un caviar, Bernard Vivier, tout à l'heure. Il a parlé de gouvernance. Voilà, c'est, y a un côté présidentialisme finalement. On en parlera tout à l'heure avec Monsieur Plenel, mais est-ce que ça n'est pas aussi ça? C'est-à-dire que c'est un homme seul, Carlos Ghosn, il a des défis incroyables, abyssaux, il a une pression énorme, et il finit par être dans une solitude qui nuit finalement à l'affaire.
Et ce qui vient d'être dit sur le temps judiciaire, c'est-à-dire le temps du dirigeant. Le temps du dirigeant, aujourd'hui, il est extrêmement contraint par la puissance, l'exigence économique. Une entreprise, répétons-le, a besoin de sécurité, parce qu'elle a besoin de se développer dans la sécurité. Mais le temps, aujourd'hui, manque à cette entreprise. Les médias vont laisser passer l'affaire. Mais les drames dans l'entreprise et dans la société Renault, ils sont là. Il va falloir réparer. Il va falloir réparer l'image de l'entreprise. Il va falloir réparer la confiance des salariés qui est abîmée. Et la confiance des salariés dans leur entreprise. Et ça, c'est le plus grave. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'il y ait de l'inquiétude dans une entreprise, c'est normal. Qu'il y ait de la méfiance, c'est grave. Et il va falloir, je termine là, réparer la gouvernance de Renault, dont les dirigeants ont pris une responsabilité. Ça a été dit. Le 22 janvier, le patron de Renault est allé à la télévision pour dire « Nous avons des preuves multiples ». Il n'avait rien du tout.
On l'entendra. Bon.
Donc c'est quelque chose qui est très lourd. On le voit aujourd'hui. Que font les syndicats? Pour l'instant, chez Renault, ils défendent la direction parce qu'ils ont peur que tout s'écroule et que cette confiance, effectivement, soit encore plus attaquée. Ils ont à gérer cette lourdeur interne. Et en même temps, on le voit notamment auprès des ministres qui disent « il va falloir quand même qu'on fasse le ménage dans un moment ». Pellata, le numéro 2, Patrick Pellata, sa démission a été refusée. Mais il est évident qu'une fois que la vague médiatique sera retombée, des décisions lourdes seront prises. Et là, on voit bien que le PDG, il est responsable. Quand on est responsable, on est responsable.
Bernard Vivier, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a d'une certaine façon une fragilité nouvelle des patrons, des grands patrons. Ça peut paraître un peu paradoxal, ils sont au CAC 40, ils gagnent beaucoup de sous, mais il y a une fragilité nouvelle. Je pense à la situation de France Télécom, qui était très différente, lorsque l'autre monte au créneau et nous dit la suicide, c'est la mode en ce moment. Bon, terrible, tout le monde lui tombe dessus. C'est vrai!
Oui.
Il y a une fragilité nouvelle.
Oui, il y a une fragilité nouvelle parce que la proximité a été perdue. Ce qui fait la force d'une entreprise, c'est quand les chefs, les patrons, les leaders, les managers sont non pas au-dessus de leurs équipes, mais au milieu d'elles. Et là, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle soit grande ou petite, l'entreprise, elle est solide. Quand les patrons s'éloignent des salariés, sont au-dessus d'eux, là, tout est possible, malheureusement.
Bonsoir Gilles Verviche.
Bonsoir.
Merci Gilles d'avoir patienté durant ce moment. Je voulais vous avoir, vous êtes philosophe bien sûr, et Gilles Verviche, vous avez travaillé sur le quotidien, y compris sur le sport. Je voulais vous entendre pendant 2-3 minutes sur cette affaire. Quel regard vous portez, quel regard porte un philosophe sur quelque chose qui est complètement kafkaïen, en effet, au départ, parce qu'il y a une lettre anonyme, et on vous dit, vous êtes libre, mais on vous arrête, hein, d'une certaine manière, vous êtes coupable de n'avoir rien fait.
D'abord, on pourrait rappeler que c'est quand même pas nouveau. On parlait de l'affaire Dreyfus tout à l'heure. Je pourrais revenir en tant que philosophe sur l'affaire Socrate, qui est encore plus ancienne. À l'époque, il y avait justement des sycophantes, des accusateurs publics professionnels qui étaient payés justement pour dénoncer les gens et récupérer un peu des sous sur la condamnation.
Oui, lui, il prend pas d'indemne, hein, Socrate, à la fin. Il boit la ciguë.
Il boit la ciguë, il s'en sort aussi mal que d'autres. Alors l'idée, c'est qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de ministère public à l'époque, c'était un jury populaire, donc tout le monde pouvait un peu s'y mettre. Alors effectivement, forcément, c'est pas l'individu lui-même qui va se sentir coupable. Quoi qu'on ait fait soi-même, on pense toujours qu'on a fait quelque chose de bien. Si on prend la pierre des crapules, il pense jamais à mal, de toute façon. Donc, ça doit toujours venir de l'extérieur. C'est toujours quelqu'un d'autre qui vous condamne, qui vous accuse. Mais après, il faut savoir d'où ça vient. Effectivement, le problème, c'est que quand on fait pas confiance au ministère public, je pense que l'intérêt, c'est que c'est de suivre comme ça juste des dénonciations privées calomnieuses sans travailler un peu l'impartialité de la justice, quoi.
Ouais, sauf que oui, Frédéric Ploquin, sauf que les accusations, elles venaient tout de même dans un cadre défini, enfin c'est assez sérieux. C'est pas la vindicte.
Les lettres anonymes.
Oui, mais c'est pas la vox populi. Enfin, il n'y avait pas que la lettre anonyme.
Il faut quand même dire aux auditeurs que la plupart des.
Oui, mais la plupart du moment où c'est quelqu'un qui a un intérêt le propre de la justice, c'est quand même d'avoir affaire à un juge impartial, neutre. Et faut toujours faire attention d'où vient l'accusation.
Merci Gilles Verviche. Non, je ne vous vois pas, c'est pour ça. Vas-y Frédéric Ploquin.
Non, je disais qu'il faut quand même expliquer aux auditeurs que la plupart des grandes affaires, c'est un fait, démarrent avec des lettres anonymes. Je veux dire, les affaires politico-financières qui sont en train de secouer Marseille actuellement, elles ont démarré sur des lettres anonymes.
Par des lettres anonymes.
Mais tout démarre, la plupart des grands dossiers finalement, je veux dire, et même d'ailleurs, les affaires de grand banditisme, je veux dire, quand on a une affaire de drogue, en général, c'est qu'il y a un concurrent qui vous a balancé. Donc le fait que ça démarre, cette histoire, par une lettre anonyme n'est pas en soi, je crois que celui qui met dans le tuyau cette lettre anonyme, qui est particulièrement bien rédigée, en fait, c'est ça, c'est pas une lettre juste comme ça d'insulte, c'est une vraie, comme celle qu'on a dans certaines affaires, c'est une lettre très renseignée, presque trop d'ailleurs, parce que le type en réalité se piège lui-même, celui qui écrit la lettre, parce que à un moment donné, dans le courrier, il explique que si le service de sécurité de Renault ne se met pas sur l'histoire, il va commencer à faire du boucan et peut-être alerter la presse. Il écrit ça. Dès que les services de police des CRI récupèrent cette lettre, tout de suite, la première chose qu'ils se disent, mais celui qui dit ça est forcément dans l'entreprise. Parce qu'à partir du moment... Parce que personne n'est censé savoir.
Vous en recevez beaucoup des lettres comme ça anonymes?
Dans les journaux.
Dans les journaux. Je ne sais pas si Alain
on en reçoit très souvent, évidemment. Très souvent. Et des choses extrêmement circonstanciées, précises, parfois vraies, parfois complètement farfelues. Je veux dire,
Le problème, c'est que la loi, enfin la réglementation, alors ça, on a utilisé un terme anglais parce qu'on n'a pas de terme français qui s'appelle le whistleblowing, c'est-à-dire le fait que quand on demande à des salariés, quand ils ont connaissance de faits délictueux au sein de leur propre organisation, de les dénoncer. C'est-à-dire que la loi le demande aussi, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut faire le tri, parce qu'on est aussi dans une logique et dans une culture actuelle de transparence et d'abus des positions, justement, enfin de dénonciation des positions abusives, et donc on demande aussi aux salariés de plus en plus de jouer leur rôle de citoyen et donc de dire voilà, il faut dénoncer des pratiques que vous pouvez constater dans vos entreprises. Donc je comprends que c'est compliqué aussi de faire le tri dans tout ce qu'on reçoit. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a une vraie nature humaine. Médiser, il en restera toujours quelque chose, disait la marquise de Sévigné. Je pense que quelques siècles après, elle dit toujours vrai.
C'est Europe 1, c'est bienvenu jusqu'à 22h. À tout de suite, après la pub.
Pierre-Louis Basse sur Europe 1.
De 20h à 22h, bienvenue chez Basse.
Le grand roman de Renault, un roman à suspense bien sûr, après vous le savez cette histoire qui s'est abattue sur ces trois salariés et qui sont maintenant bien sûr innocentés, on verra l'avenir. Je recevais ce soir Bernard Vivier, Bruno Fuligny, historien, Éric Delbecq, Nicolas Arpajon et Frédéric Ploquin. Écoutez Carlos Ghosn, c'était le 14 mars dernier je crois, chez nos amis de TF1, il s'excuse.
Écoutez, je me suis trompé, nous nous sommes trompés et il semble que nous ayons été trompés. Ceci étant dit, nous assumons la situation. La première chose que je voudrais dire, c'est présenter mes excuses personnelles et au nom de Renault à Michel Balthazar, à Mathieu Tenenbaum et à Bertrand Rochette, ainsi qu'à leur famille, à leurs amis. Je suis engagé, ainsi que l'ensemble de la direction de Renault, à les réintégrer et à leur présenter les indemnités qui soient à la mesure du préjudice qu'ils ont subi.
Bernard Vivier, est-ce que vous pensez qu'on peut être motivé, je veux dire, pour l'entreprise après une telle affaire ? Est-ce que les garçons ont envie de mouiller la chemise ?
Écoutez, certains souhaitent. Ils sont trois, ils sont même quatre. Oui. Hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y en a un quatrième, Philippe Clojanson, qui a été licencié fin 2009 dans les mêmes circonstances. Mm-hmm. Donc, certains sont désireux de revenir. D'autres, mais ça, l'avocat Thibault de Montbrial nous l'a dit, ils réfléchissent. Bon, mais quand on consacre toute sa vie à un niveau de responsabilité comme celui qu'ils avaient, on n'abandonne pas une entreprise. Cela étant, ils sont dans une situation dramatique. Alors, Carlos Ghosn a dit, moi j'abandonne la part variable de ma rémunération.
C'est gentil.
C'est un cinquième.
C'est un beau geste.
C'est un cinquième de sa rémunération. Bon, globale, annuelle. C'est un geste,
oui,
mais revenons là-dessus. Le mot force et le mot confiance. Et nous le savons, les systèmes aujourd'hui de destruction de la notoriété d'une personne, ça vient de n'importe où. Il faut une vie entière pour construire un homme. Il faut un quart d'heure pour détruire sa réputation. Ouais. Dominique Baudis l'a dit à sa façon, ouais, quand lui-même a été victime d'une telle opération. Donc, les systèmes de diffusion d'informations sont des systèmes terrifiants. Le net n'est pas vérifiable. Wikipédia n'est pas une vraie encyclopédie. Elle n'est pas scientifique. Et ainsi de suite.
Bruno Follini, qui voulait intervenir tout à l'heure. Et je lui ai coupé la chic.
Non, nous parlions des lettres de dénonciation. J'ai eu la curiosité un jour de regarder les lettres de dénonciation qui sont arrivées à la préfecture de police quand on cherchait les membres de la bande à Bono.
Ouais.
Ça représente 10 cartons, 10 gros cartons noirs, c'est colossal. Et alors ce qui est incroyable dans ces lettres, c'est qu'il y a toutes sortes de choses fantaisistes, il y a des lettres qui vont être utiles à l'enquête, et puis alors, il y en a une, on signale un type vachement bizarre, mais vraiment bizarre, pas net du tout, qui en plus est étranger, qui doit mal penser. En fait, c'est Oulianov, c'est Lénine, il est en exil à Paris, il n'a rien à voir avec la bande à Bono, et en même temps, on donne une piste. C'est ça qui est très paradoxal avec la dénonciation, avec ces informations qu'on échange, c'est qu'il y a toujours des pistes, même quand c'est faux. C'est très particulier. Et là où on se heurte à quelque chose aujourd'hui, dans notre temps qui est médiatique, mais qui est aussi celui des entreprises, qui est aussi maintenant celui des administrations, où il faut aller vite, il faut aller très vite, c'est que l'espionnage, et plus encore le contre-espionnage, ça prend du temps. C'est pour ça que les États ont une avance, si vous voulez, un avantage par rapport à des entreprises qui prétendraient créer leur propre service de renseignement. Il faut du temps. En matière de contre-espionnage, on pratique par exemple ce qu'on appelle la longue corde. C'est-à-dire que quand vous repérez un espion, il ne faut pas l'arrêter tout de suite. Il faut le surveiller, il faut voir avec qui il est en contact, il faut comprendre quels sont ses réseaux. Si vous repérez un micro dans votre salle de bain, il ne faut surtout pas l'écraser tout de suite. Utilisez-le pour envoyer des informations aberrantes à l'adversaire. Vous voyez, cette gestion du temps et du temps long, elle est impossible à faire dans un contexte d'entreprise où il faut tout de suite annoncer quelque chose.
Frédéric Ploquin.
Non, je voulais revenir sur ce que disait le PDG de Renault. Il dit « je me suis trompé, nous nous sommes trompés ». Moi, j'aurais envie d'ajouter, il a bien voulu se laisser tromper, je veux dire, parce que c'est clair qu'il a tendu la joue, je veux dire, et je trouve que là il va pas assez loin. Il aurait pu faire son autocritique réellement. Il a pas voulu la faire. Je pense que il a été sauvé là sur le fil parce qu'il s'est passé au Japon, par le drame japonais, dans la mesure où il est très impliqué là-bas. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette affaire japonaise, il n'est pas certain qu'on ne l'aurait pas donné un petit coup de boutoir pour l'extraire à moyen terme, en tout cas, de Renault.
J'aurais une dernière question très précise à poser à Nicolas Arpajon et Eric Delbecq. Eric,
oui,
répondez, allez-y.
Il ne faut pas non plus, je crois, se polariser sur Carlos Ghosn. Moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe, c'est que dans tout cela, il y a une chaîne de responsabilité. Il y a quand même toute une chaîne hiérarchique qui n'a pas fait son travail. Et qu'une affaire comme ça ait pu naître, que des informations ou des pseudo-informations aient pu remonter et créer ce scandale sans qu'à aucun moment un manager quelconque n'ait dit « il faudrait quand même se pencher sur le fond du dossier, regarder ce qu'il y a dedans, évaluer si tout cela mérite licenciement, etc. » avant même qu'on parle de la responsabilité de Carlos Ghosn, il y a quand même là une faille de management sur laquelle la restauration de la confiance se basera à l'avenir. C'est ça qu'il s'agit d'exploiter et derrière d'annoncer des vraies mesures pour dire que cette problématique sûreté dans l'entreprise sera traitée différemment de par le passé. La question, c'est est-ce qu'on a tiré une expérience de tout cela ?
Alors, je voudrais qu'on boucle la boucle, si je puis dire. Nicolas Arpajon et Eric Delbecq, et terminé un peu par le commencement, Frédéric Ploquin, est-ce que cette affaire peut aider à l'intelligence à se renouveler, être parano mais faire attention, avoir d'allumer des contrefeux, hein, parler de glissière de sécurité, ou est-ce que ça va en mettre un coup et des types très malins vont s'engouffrer engouffrée dans cette faille.
Alors, je pense qu'elle va à la fois, elle a deux effets. Premier, la fragilisation. C'est-à-dire que combien de gens, ou salariés d'une grande entreprise, vont se dire, comment ça se passerait chez moi? Est-ce que chez moi, je serais attaqué aussi dans mon entreprise? Est-ce que mon employeur aurait la même démarche de me stigmatiser?
Parce que les affaires, elles existent. On
absolument.
Est d'accord. Il y en a 5 ou 6 000 par an.
Absolument.
Enfin,
donc,
la question est,
à un moment où l'entreprise, dans une période de tension économique, est très exigeante vis-à-vis de ses collaborateurs en disant, soyez fidèles, soyez performants, soyez compréhensifs, en n'ayant pas des exigences trop importantes du point de vue salarial, etc. Quand serait-il le jour d'une crise? Est-ce que chez moi, on m'aurait porté assistance ou pas? Donc c'est effectivement, au-delà du seul cas de Renault, c'est une question, je pense, dans beaucoup de grands groupes qui mérite, enfin, en tout cas qui va être posée, et beaucoup de salariés ont, à un moment ou à un autre, se sont mis dans la peau de l'un de ces 3-4 hommes dans ces circonstances-là. Et tous n'ont pas un pédigré aussi ou un CV qui les lie aussi intimement à l'entreprise. Et le côté positif, ça va être de se dire l'information dans l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Ce qui fait la différence, on a beau investir dans des programmes de recherche, de développement, ce qui fait la différence entre une voiture A et une voiture B, c'est bien l'innovation, c'est bien la création de ce patrimoine informationnel qui fait qu'on n'est pas uniquement dans des usines qui où il s'agit juste d'assembler des pièces, mais il y a de l'intelligence et il faut la protéger.
Frédéric, court, hein, puisque les artistes attendent, Eric. Frédéric,
en matière d'intelligence économique, il y aura un avant et un après cette affaire, et que notamment l'État va réfléchir à la façon dont un certain nombre de ses fonctionnaires se recasent un peu trop vite pour, en gros, faire du pognon dans les entreprises privées. Je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir sur la manière dont ça se passe, premièrement. Et deuxièmement, je pense que les PDG, parce que mon voisin disait qu'il n'y avait pas eu d'intermédiaire, mais justement, je crois qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre le PDG et son service sécurité. Et c'est ça le problème. Et donc, il n'y avait personne entre les deux. Et j'ose espérer que les PDG, dans le futur, réfléchiront à mettre un peu de distance.
Éric Delbecq.
Premièrement, il ne faut pas, et ça, c'est ce qu'on peut craindre, qu'un fiasco fasse penser après que les affaires d'espionnage industriel, ça n'existerait pas. Donc oui, ça existe, et c'est pas parce qu'il y a eu un fiasco que pour autant tout le reste c'est de la paranoïa. Et deuxièmement, en revanche, tout cela a quand même un effet, je pense, positif sur les pratiques, et au fur et à mesure on arrive à lisser. Il y a des expériences dans certains groupes qui montrent quand même qu'il y a quelque espoir et qu'on n'est pas dans l'amateurisme tout le temps.
Merci mille fois Éric Delbecq, Nicolas Arpagian, dont je rappelle le texte La cybersécurité, c'est chez PUF, Frédéric Ploquin, bien sûr, Bruno Fuligny, merci Bruno d'être venu ce soir avec Bernard Vivier. On se retrouve bien sûr dans deux secondes, restez avec nous, vous allez applaudir des jeunes, une belle voix pop, double voix pop, à tout de suite, c'est bienvenu jusqu'à 22h.
Europe 1, bienvenue chez Basse,
le live.
Ava est dans nos murs, on les applaudit très fort, s'il vous plaît, ils sont jeunes.
Bonsoir.
Ils sont trois, je croyais qu'ils étaient deux. Ils sont trois finalement, c'est formidable. Bienvenue, c'est à vous.
Merci beaucoup.
Yeah.
se dire que oui, ça t'est bien, mais la petite lendemain nous tue. Mais c'est un coup du sort qui nous hâte à contre-temps de nos erreurs. Même s'il y croit encore, oh, j'ai peur que ce malheur ne vienne pas seul. Mais c'est un coup du sort qui nous hâte à contre-temps de nos erreurs. Même s'il y croit encore, oh, j'ai peur que ce malheur ne vienne pas seul.
Ah, ils ont des visages à piquer nos filles, hein. Ils sont jeunes, Dimitri, Léo et Jérémy. Et on va les retrouver sans faute vers 21h25, après l'humeur de Edoui Plenel. Merci à vous. Merci vous. Ils seront le 7 avril au Buzz de Belleville et au Buzz Palladium le 9 avril. Il ne sera pas sur scène, Jean-Michel Duez, trop vieux, c'est fini, c'est comme moi.
Je peux plus
enfin,
y
il
aller.
Peut encore rêver quand même.
On non, peut
c'est
rêver, oui.
Enfin, il fait l'info, c'est déjà pas mal sur Europe. A tout de suite. C'est vrai, c'est déjà bien.
C'est déjà pas mal.
Réussi.
Hein, bon, on peut dire ça comme ça. Alors.
Jean-Michel Duez pour l'info.
C'est merci Pierre-Louis. Tout d'abord du football, la Ligue de Tours, Nantes. Thierry Pétraud, on fait le point avec vous sur ce match.
Il reste 16 minutes à jouer, les Tourangeaux qui ont pourtant l'occasion de se rapprocher du podium. Eh bien, ils sont menés 1-0 par les Nantais. Ils avaient pourtant bien entamé cette rencontre en trouvant le poteau sur une talonnade de Diego. Mais ils se sont fait surprendre à la 19e minute par cette tête plongeante de Vivian sur corner. Et voilà les Tourangeaux menés 1-0 dans ce match décalé de Ligue 2.
Merci Thierry Pétraud. Les cantonales, François Fillon se démarque. Le Premier ministre appelle à voter contre le Front National en cas de duel PSFN. Au second tour, nous devons rappeler que nos valeurs ne sont pas celles du Front National, déclare François Fillon. C'était tout à l'heure devant le bureau politique de l'UMP en précisant qu'aucune voix de la droite ou du centre ne doit se porter vers l'extrême droite. Un discours qui n'est pas celui de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État avait confirmé ce matin la consigne déjà exprimée hier soir, à savoir ni vote FN, ni vote socialiste. En tout cas, il se confirme que l'électeur de la majorité aura peut-être du mal à s'y retrouver puisque Xavier Bertrand, le ministre du Travail, appelle ce soir à voter blanc. Quant à Jean-Louis Borloo, le président du Parti radical associé à l'UMP, il appelle clairement à faire barrage au Front National. Il faut voter pour le PS en cas de duel avec le FN, déclare Jean-Louis Borloo. Pas d'inquiétude, c'est le discours officiel alors que le nuage radioactif de la centrale de Fukushima devrait arriver en France dans les prochains jours. Les retombées devraient être à des niveaux extrêmement bas et elles devraient être sans conséquences sur la santé. Discours exprimé par l'autorité de sûreté nucléaire et par l'Institut de radioprotection et de la sûreté nucléaire. Officiellement, il n'y a aucune précaution à prendre. Il est inutile de cloîtrer les enfants ou de se précipiter pour acheter des comprimés d'iode, affirme l'un des responsables de l'IRSN. La Libye, l'Europe s'est montrée divisée aujourd'hui, à commencer par l'Italie qui demande à vérifier la conformité des premiers bombardements. Cela ne devrait pas être une guerre contre la Libye, estime le ministre italien des Affaires étrangères. Hier, c'est le chef de la Ligue arabe qui avait critiqué les opérations militaires, une déclaration qui a conforté aujourd'hui l'Allemagne dans son scepticisme. Quoi qu'il en soit, la France garde le cap. Pour Alain Juppé, c'est un succès. Selon le ministre des Affaires étrangères, cette opération militaire a évité un bain de sang à Benghazi. Tandis que ce soir, Barack Obama précise la position des États-Unis. Kadhafi doit partir, a dit le président américain. Twitter a 5 ans et le site de Microblog vient d'ouvrir ce soir une nouvelle page Internet montrant plusieurs célébrités rendant hommage à Twitter. Notamment, on y voit Serena Williams ou encore l'homme d'affaires Richard Branson. La météo, toujours du soleil sur la quasi-totalité de la France et toujours quelques nuages dans le sud, en Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine, avec même quelques averses possibles en fin de journée dans ces deux dernières régions. Les températures, elles sont en hausse l'après-midi, 14 degrés à Besançon, 15 à Lille, à Brest et à Marseille, 16 à Paris, Nantes, Biarritz et Ajaccio, et 18 à Bordeaux. Vous écoutez Europe 1, il est 21h03, on retrouve Pierre-Louis Basse.
Salut Jean-Michel.
À tout à l'heure.
Salut, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Français ou voyou, bienvenue chez Basse.
Ou bien je m'y suis habitué.
Désespoir et mobilisateur.
Il faut laisser le temps de répondre.
20h, 22h sur Europe 1.
Pierre-Louis Basse.
Le meilleur est à venir vers 21h15. Les amis, nous serons avec Edoui Plenel qui publie un texte absolument passionnant. Ce sont des chroniques au long cours, bien sûr, mais pas seulement.
il y a une âme, celle sans doute de la vigilance du point de vue du journalisme, de notre métier. Louis Penel est le président et fondateur de Mediapart, et ce texte, Le Président de Trop, est publié chez Don Quichotte. Jean-Marc Parisi est dans le fauteuil à nos côtés ce soir, c'est dire s'il a aimé ce texte. Nous retrouverons bien sûr Ava et la Pop après Edoui Plenel, la romancière Pascale Rose qui publie un superbe Aujourd'hui des cœurs, ce dessert chez Stock, deux destins croisés, deux frères, l'un est libre, Jean, l'autre s'évade. Nous sommes au cœur de la Seconde Guerre mondiale et c'est un roman absolument passionnant. Et puis, nous nous sommes dit ce matin, mais écoutez, c'est très simple, parfois vous savez les sujets, on n'a pas besoin de regarder la télévision ou de lire les journaux, on observe et puis c'est le printemps. Et bien j'avais envie ce soir de vous offrir l'histoire du printemps. Je recevrai Laurent Cabrol qui sera à mes côtés en direct et Emmanuel Leroy-Ladurie qui a beaucoup écrit sur l'histoire du climat depuis l'an 1000. C'est un texte majeur chez Flammarion. Et bien nous évoquerons le printemps à la fois du point de vue de la couleur du ciel et puis aussi de ses révolutions. Souvent, le printemps fut synonyme de révolte et de révolution. À tout de suite.
Pierre-Louis Basse sur Europe 1.
Mais c'est vrai que c'est un film qui est très beau.
Et puis c'est des chansons un peu pansements.
De 20h à 22h.
Donc il y a une grande passion.
Bienvenue chez Basse.
Avec Isabelle Mac, que je salue, bonsoir.
Bonsoir. Madame.
Et c'est un honneur de vous recevoir dans Bienvenue ce soir. Isabelle Mac, vous êtes la petite fille du créateur et fondateur de cet univers incontournable quand on parle de peinture ou de sculpture. Parce que Miro, peintre, d'accord, mais Miro, sculpteur, c'est rare, hein, Isabelle Mac.
Mais Miro, sculpteur, c'était mon envie. C'était un pari avec la fondation du Nazierny Musée Mailleul. De montrer Miro sculpteur à partir des collections de la Fondation.
Comment expliquer cette rareté donc en effet la Fondation qui permet cette exposition donc au musée Mailleul. J'ajoute qu'il y a le catalogue que Gallimard a édité qui est somptueux. Comment expliquer cette rareté parce que Miro lui-même je crois n'aimait pas les rétrospectives, vous le rappelez, parce qu'il aimait pas la mort et pourquoi Miro est-il surtout quand on pense à Miro, on pense au Miro peintre et à ses soleils.
Mais on pense à Miro peintre, mais Miro a toujours été sculpteur, puisque dès les années 20, il assemblait des objets pour en faire des bas-reliefs, enfin, ce qui était déjà des débuts de sculpture. Et en fait, dans sa sculpture, il reste complètement dada et surréaliste, assemblant ce qu'il appelait des presque rien pour en faire des œuvres d'art.
Ouais.
Et Miro n'aimait pas effectivement le retour vers le passé. Il était toujours dans l'avenir, toujours dans l'avenir, et il recherchait l'avenir, sans arrêt. Et en fait, dans son travail, il est à la recherche d'une nouvelle expression. Lorsque l'époxy est apparu dans les années 70, il a immédiatement dit « je vais faire des sculptures en époxy ». Et en fait, Miro sculpteur est peu connu, parce que peut-être que les conservateurs sont un petit peu timides. Nous avons la chance à la Fondation d'avoir énormément de sculptures qui ont été offertes par mes grands-parents, Marguerite et Aimé, ou par Miro lui-même.
C'est fou, hein.
Et en fait, nous avons dans la Fondation MAG la plus grande collection d'œuvres de Miro au monde, en dehors de la Fondation Miro, bien entendu.
Et on constate en parcourant, en observant ces sculptures, Isabelle, qu'il y a, toutes les influences enfin, de Calder à Giacometti, enfin tout se retrouve hein, dans ces sculptures, c'est magnifique.
Miro regardait tout. Il était, moi, il m'a appris, petite fille, à regarder un galet, à regarder la beauté d'un ciel, à regarder une feuille d'arbre et à prendre plaisir à toucher un tronc d'arbre. Et d'ailleurs, dans l'exposition, il y a pas mal d'œuvres qui reprennent cette idée de la matière.
Mmh.
Et dans cette exposition, j'ai voulu montrer un Miro qu'effectivement, les gens ne connaissent pas, mais il y a quand même des sculptures en couleur peintes par Miro. Et il a été le premier artiste à peindre ces sculptures avec des couleurs extrêmement vives, des rouges, des bleus, des jaunes, enfin les couleurs Miro.
Oui, les couleurs Miro, bien sûr, qu'on aime et qu'on observe chez vous, bien sûr, à Saint-Paul-de-Vence, mais aussi, à, par exemple, à Barcelone, sur les hauteurs de Montjuï, où il
y a ce magnifique... À la Fondation Miro.
À la Fondation
et
Miro.
En fait, la seule œuvre majeure que je n'ai pas pu transporter au Musée Mailleul, c'est le labyrinthe de Miro qu'il a fait pour la Fondation, qui est peuplé de l'oiseau lunaire, de l'oiseau solaire, voilà, de ce grand minotaure, de toutes ces maternités. Miro était un amoureux de la femme, la femme, des maternités. Et en fait, dans l'exposition, ce que j'ai voulu montrer, c'est sa formidable diversité. Et puis, on est chez un sculpteur, on est chez Mailleul. Donc, c'était aussi un grand pari de montrer la Miro sculpteur chez un sculpteur.
Ça représente une centaine de sculptures, Isabelle Maïd, 22 céramiques. Dites-moi, quand on grandit, comme je crois, vous avez vraiment grandi plus près de Miro, hein, qui est parti en...
Ah ben bien sûr, pour moi, c'est comme un grand-oncle.
C'est fou, hein.
Vous savez, Miro était un homme d'une extrême gentillesse, d'une extrême bonté. C'était un monsieur qui était exactement le contraire de ce qu'il est dans son travail. C'est-à-dire qu'il était très pudique, très... timide n'est pas le mot, mais disons très réservé. Et c'était un homme délicieux. Moi, il m'a vu naître, donc il fait partie de ma vie. Et puis, il passait chaque été un mois et demi à deux mois à Saint-Paul. Et de partager ces deux mois avec lui, comme on peut partager des moments en famille, quand les familles se retrouvent l'été venu dans la maison familiale, eh bien, c'est des grands moments. Alors, quand on est enfant, on ne s'en rend pas bien compte, parce que ça fait partie de la vie. Mais quand on grandit un petit peu, le fait d'être aux côtés de Miro ou de Monsieur Braque ou de Giacometti ou de Calder, ce sont des moments rares et des moments de vrai bonheur d'être en famille.
Ouvrir les portes libératrices du merveilleux, faire exploser dans nos rêves futurs l'atome de la joie, c'est Miro. Il faut aller voir cette exposition qui existe parce que la Fondation a pu offrir toutes ces sculptures et ces céramiques, ne serait-ce que pour ces bronzes peints. Isabelle, ce sera ma dernière question.
Sûr.
Ces bronzes peints.
Ce qui est important aussi, c'est que nous sommes deux fondations. C'est la Fondation Dina Virny, c'est la Fondation MAG. Et en fait, l'idée de réunir ces deux fondations autour de la joie de Miro et de la... Si vous voulez, dans l'exposition, il y a des sculptures extrêmement lisses, extrêmement, sensuelles, et puis d'autres qui sont très rugueuses. Il y a dans l'exposition une sculpture qui s'intitule La Porte 3, qui pèse 2,5 tonnes. Et la transporter au musée Mailleul, ça a été aussi un pari. Et puis, il faut surtout... regardez les titres des œuvres de Miro, parce que ce sont comme des poèmes. Monument dressé en plein océan à la gloire du vent. C'est formidable comme titre pour une sculpture. Merci. Ou La Belle Blonde, les trois cheveux magnétiques de La Belle Blonde à des papillons. Miro était un poète, et vraiment sa sculpture, c'est une pure poésie.
Merci infiniment d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci
avec
de m'avoir
toute
reçu
votre passion.
Et j'espère avoir transmis un petit peu de ma passion pour Miro.
Mais je vous le confirme, ou jeune fille s'évadant, qui date de 68, et pour ses bas rouges, c'est un bronze, ne serait-ce ouais. que pour ça, il faut aller à Mailleul. Merci Isabelle.
Évadez-vous à Mailleul.
Et on se dit à bientôt.
À très bientôt, merci.
Au revoir, à bientôt.
Europe 1. Bienvenue chez Basse. Les nerfs éclatent. Les nerfs en plotte.
Oui, c'est une belle humeur. Bonsoir Jean-Marc Parisi.
Bonsoir.
Il vient que quand il aime, il faut le savoir, c'est un seigneur. Au soir de la prochaine élection présidentielle de 2012, quel qu'en soit le résultat, il sera tout de même assez délicieux de compter dans la salle les journalistes qui auront su, au bout du quinquennat, ne pas se coucher comme des toutous apeurés dans la niche du pouvoir. S'il y a bien une certitude, et du plein le bonsoir,
bonsoir,
c'est que vous aurez l'autorisation de vous lever au fond de la salle. Vous publiez Le Président de Trop, chez Don Quichotte, vous êtes directeur de Mediapart, site numérique qui est payant, qui a pris toute sa place sur cette scène. Chronique au long cours, chagrin, colère. Je me demande, Edoui Plenel, si je ne vais pas vous chercher tout d'abord sur le terrain de l'irréalité au travers de ces années que nous venons de vivre. Et je vous lis. Tout est résumé, dites-vous, à la page 44 de L'Aube, le soir ou la nuit, portrait de Nicolas Sarkozy, en candidat par Yasmina Reza, paru automne 2007. Voici ce que le dramaturge écrit. Quelques jours plus tard, le même Laurent Soli, me dira que la réalité n'a aucune importance. Il n'y a que la perception qui compte. Alors, je vous pose la question. Il me semble que s'il y a un scandale, mais c'est pas à moi de le dire, il pourrait être autant du point de vue de la servitude volontaire dont vous parlez, que du point de vue de l'irréalité, de quelque chose qui a été inventé, et ce quelque chose inventé qui a forcément, in fine, déçu
Oui, c'est une politique, c'est une politique fiction, c'est une politique qui nous déréalise, c'est une politique qui nous emmène loin de toutes nos réalités concrètes. Alors, la fiction, ça peut être très agréable, on lit des romans, on voit des films, mais quand il s'agit du bien commun, de la politique, c'est effroyable, parce que c'est une façon d'oublier toutes nos urgences, qu'elles soient sociales, démocratiques, concrètes. Donc, la politique de fiction, c'est au fond une politique de guerre. Elle met en guerre les uns contre les autres. Donc vous avez raison, la déréalisation, c'est au cœur, au fond, de la fin du bien commun.
Et vous l'expliquez d'ailleurs au long cours de 2007 à aujourd'hui, ça revient très souvent, il y a une métaphore qui m'a plu, peut-être parce que je suis un skieur et que j'aime cette métaphore de l'essuie-glace. Vous savez, quand on va en haute montagne, pour ne pas tomber, on balance ses skis. C'est une invention française. Pour ne pas tomber, on balance son ski en essuie-glace.
On a inventé la présidence essuie-glace.
Voilà, et donc on ramasse beaucoup de choses.
Ah, et on ramasse ou on efface. Regardez, l'intervention en Libye, vue de la France, c'est opération oubli. Parce que comment on peut comprendre ça? 2007, la tente du colonel Kadhafi, les avions qu'on lui a vendus, tous les liens avec ses dictateurs. Et là, d'un coup de baguette magique, on veut nous faire oublier ça. Mais quelle logique ! Dans le même moment, on dit aux Libyens, venez là, on va s'occuper de votre liberté. On dit ici, venez pas chez nous, il y a trop d'étrangers chez nous, on se sent pas chez nous. Donc c'est une politique qui est au bout du compte sans queue ni tête. Vous connaissez le chiffre du jour aujourd'hui, Pierre-Louis Basse ? Le parti majoritaire qui tient la présidence de la République, Matignon, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les nominations, la République, il pèse 7% des inscrits depuis hier au cantonal. 7% des Français inscrits sur l'élite électorale ont voté pour lui. Voilà le bilan, qu'on soit de droite ou de gauche, objectif de cette présidence. Elle détruit la politique.
J'aurais pu vous poser la question frontalement, que pensez-vous du Front National et de sa présence aujourd'hui ? Je préfère vous demander s'il n'y a pas eu finalement comme un souterrain qui s'est creusé et un glissement sémantique qui était déjà écrit. Puisque vous rappelez qu'on part finalement d'une phrase qui devient presque une antienne, « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ? » Et ça n'est pas une phrase du Front National.
Je l'écris
c'est quelque chose
avant l'élection.
Avant l'élection.
Bien sûr.
Comme un terrain qui aurait donc été préparé.
Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je comprends tous ceux qui ont voté Front National. Il a raison, Jean-Marie Le Pen, il vaut mieux l'original que la copie. C'est quand même terrible. Il y avait quelque chose qui unissait toutes les forces républicaines depuis 1945, qu'on appelait la République démocratique et sociale, qui, après les deux guerres mondiales, les catastrophes, les génocides, disait qu'on ne trie pas entre Français selon l'origine. Des communistes aux gaullistes, tout le monde était d'accord avec ça. Cette présidence, en piétinant sa propre histoire, d'où elle vient, a rompu ce barrage. Elle a rompu ce barrage avec une histoire très française. L'extrême droite, c'est une histoire intellectuelle. C'est quoi l'extrême droite ? Il y en aura toujours. Et moi, je suis contre la diabolisation de l'extrême droite. L'extrême droite, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est contre l'égalité. Elle pense qu'il y a toujours une hiérarchie. Hiérarchie d'origine, hiérarchie de conditions, hiérarchie de race. Elle est pour la hiérarchie. Nous, les démocrates, les républicains, on est partisans de l'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Ça veut dire qu'on doit avoir tous les mêmes chances, tous le droit d'avoir des droits. C'est ça la République. Eh bien, je le dis, et je crois que je le démontre, Nicolas Sarkozy, et c'est pire qu'un crime, une faute, aura piétiné cette identité de la République. Aujourd'hui, tous ceux qui votaient UMP ou qui sont élus UMP, je pense, se le disent.
Jean-Marc Parisi.
Oui, alors, c'est un livre contre la présidence Sarkozy, mais implicitement, c'est aussi pour moi, et peut-être pas pour vous, un livre contre la France et les Français et une certaine psychologie à la française. Je vais vous dire pourquoi. La psychologie à la française, il y a beaucoup d'irrationalité, il y a une volonté de ne pas savoir. Vous êtes journaliste, vous savez bien que les Français ont un rapport assez particulier à la presse. Je veux dire, ce qui les intéresse, c'est moins de savoir que de s'émouvoir ou de fantasmer. Hein, c'est quelque chose de ce que vous disiez tout à l'heure, la fiction, la politique fiction. Or, vous parlez de Mitterrand, qui est aussi dans le genre présidentialiste, était pas mal. On peut dire que Mitterrand et Sarkozy ont été des présidents fantasmés d'un point de vue de la force et de l'autorité. Rappelez-vous le slogan de Mitterrand, la force tranquille. Rappelez-vous les thèmes de campagne de Sarkozy, le réveil, la renaissance, l'énergie individuelle. On a vu depuis qu'il s'agissait d'une force intranquille. Mais il y a quand même un rapport assez singulier de l'opinion et de la presse à l'autorité, à la force et donc à la servitude. Et ce rapport peut même dériver en religiosité et en mystique. Mitterrand, c'était Dieu. Aujourd'hui, dans une certaine partie de l'opinion et dans la presse, Sarkozy n'est pas loin d'être satanisé. On est toujours dans ce rapport de religiosité. On est toujours dans ce rapport de mystique. Et on n'en sort pas. Or, vous, vous prenez une raison critique. La raison critique, voilà. Mais comment en sortir ? Parce que vous dites qu'un bulletin de vote ne suffit pas. Vous prenez une insurrection démocratique en faisant référence à ce qui se passe en Méditerranée, Tunisie, etc. Une chose, là vous invoquez la sagesse imprévisible du peuple. Est-ce que ce n'est pas encore une autre forme de mystique et d'idéalisation dans la mesure où la sagesse imprévisible du peuple, pour l'instant, hier, elle a plutôt voté fortement pour le Front National ?
La question.
Moi, je crois aux éruptions, je crois aux surprises, je crois aux événements et c'est ce que nous pose, c'est ce que nous montrent les peuples méditerranéens. L'insurrection démocratique, j'y ai appelé sur Mediapart avant ce qui s'est passé en Tunisie. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que le peuple dise « on arrête là ». Je suis un mécréant, vous avez raison, je suis un mécréant et je dis à nous tous que ces présidences, parce que Nicolas Sarkozy est l'enfant monstrueux de la longue présidence François Mitterrand et de la présidence également longue de Jacques Chirac, je dis à nous tous, c'est-à-dire au peuple, qu'il faut que nous arrêtions d'être complices de cela. Et que pour arrêter d'y être complices, il faut que nous remettrions au cœur la jeunesse de la question démocratique qui conditionne la question sociale, le droit d'avoir des droits. Et il faut qu'en effet, on se soulève par rapport à cela. Qu'est-ce que je dis sur le présidentialisme ? Au fond, je ne suis pas contre qu'il y ait un président de la République. Mais le présidentialisme, c'est comme une pathologie. Il est au régime présidentiel ce que l'intégrisme est à la religion, ce que l'absolutisme est à la monarchie. Alors, quand j'ai cité ce chiffre de 7%, vous vous rendez compte ? C'est une minorité, même politique, qui est au pouvoir aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on se réapproprie ça. Si on ne se les réapproprie pas, ce sera la guerre de tous contre tous. Quand les pauvres se font la guerre, et c'est pour ça qu'on pousse les questions de racisme, les riches, ils n'ont pas de problème. Vous vous faites la guerre, moi, je gère mes affaires, mon avoir, mon pouvoir. Donc, ce n'est pas une croyance. Oui, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi dans l'humanité. Je ne crois pas que la catastrophe soit toujours le film à venir. Et puis bon, bref, autrement, à quoi bon vivre ?
Alors, c'est la raison pour laquelle ma dernière question sera autour de l'avenir, Edoui Plenel. Car il y a de très belles pages, notamment autour de Glissant, qui nous a quitté, le poète martiniquais, en entrée, et aussi lorsque vous citez Edgar Morin, et à travers Morin Hölderlin, qui écrit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Ce qui veut dire que, et vous terminez votre livre par Walter Benjamin, qui se suicidera, et qui nous prévenait de ne pas jouer l'avenir avant de le disputer. Est-ce que ça n'est pas finalement cette question centrale aujourd'hui qui nous anime ? Nous prendre en charge et ne pas parier forcément en négatif sur l'avenir.
Mais là, on est au cœur de ce que fait le journalisme, au cœur de la démocratie. La seule condition, c'est le présent. C'est du présent qu'il faut prendre soin. C'est d'aujourd'hui dont il faut s'occuper. Il ne faut pas essayer de gamberger sur ce que sera demain. Il ne faut pas croire au lendemain qui chante. Il faut s'occuper du présent, de sa fragilité, de ses misères.
Parce qu'on a vu ce que ça avait donné, je veux dire, aussi, les lendemains qu'il devait chanter en 81.
Mais on voit,
on a vu ce que
bien
ça avait
donné. Bien sûr, on est le produit de tous ces chagrins-là. Mais le mérite de la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est qu'elle nous a montré comme un négatif comment, à force de déléguer notre pouvoir, nous le perdons. Elle nous a montré une corruption profonde de l'idéal démocratique, de l'idéal républicain. Donc, je crois qu'il faut qu'on se le réapproprie tous ensemble.
Voilà. Merci d'être venu nous voir, Edoui Plenel. C'est un livre passionnant. C'est Le président de trop chez Don Quichotte. À lire pas seulement quand on est journaliste. Bien sûr, il y a la vigilance, mais aussi du point de vue historique. Et je sais que vous écoutez Bach quand vous travaillez. On voulait vous faire plaisir. On va se quitter avec les suites pour violoncelle.
C'est un plaisir d'artisan et d'entêtement.
De Bach, voilà. C'est pas Casals, c'est un autre, mais et Marco nous a trouvé quelque chose de très bien. Merci Jean-Marc.
Merci.
Violoncelle de Jean-Sébastien Bach pour Edoui Plenel. Merci d'être venu dans Bienvenue, Edoui.
Merci
beaucoup. Et à bientôt.
Europe 1. Bienvenue chez Basse.
Le live.
Le live.
Je vous demande d'applaudir très fort Eva, Dimitri, Léo.
Alors, Dimitri et Jérémy.
Et Jérôme, je suis désolé, Jérémy.
Pas de soucis.
Hein, désolé. À vous, à vous, à vous.
I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boo-boo-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I could not aspire to anything now, yeah. That feels desire to make you my own. Boop-boop-be-doo. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I couldn't inspire you to anything else than feel this desire to make you my own. Oh, poop, poop, be do. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you.
Superbe, Ava,
merci beaucoup.
Dimitri et Jérémy, ils seront au Buzz de Belleville, je vous le disais, le 7 avril, et en concert au Bus Palladium le 9. Salut,
merci
à bientôt
beaucoup.
Dans Bienvenue.
Merci de nous avoir accueillis.
Salut.
Europe 1.
Bienvenue chez Basse.
Culture Flash.
Nicolas, le retour, le tournage de Bilbo le Hobbit a enfin commencé.
Oui, on n'y croyait plus, mais le coup d'envoi du tournage a été donné aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de l'adaptation du roman de Tolkien dans la lignée du Seigneur des Anneaux. Le projet a pris des années de retard après des problèmes de droits de distribution, un conflit avec le syndicat des acteurs, la défection du premier réalisateur Guillermo del Toro, puis l'hospitalisation de son remplaçant Peter Jackson. Cette fois, on y est, c'est parti, les équipes tournent en ce moment à Wellington, en Nouvelle-Zélande.
Le premier prix du livre numérique attribué ce week-end
à Blandine Lecalais, qui a été récompensée pour son livre La balade de Lila Cash et Stock, un roman d'anticipation qui se passe en 2098, dans un monde où les livres sont interdits, Pierre-Louis. Blandine Lecalais a reçu le prix pendant le Salon du Livre, le salon qui était dédié cette année aux écrivains nordiques. Il s'est achevé aujourd'hui, 180 000 visiteurs selon les organisateurs. Bon score.
Je suis très fier parce qu'elle fut ma femme.
Quoi ?
Là, tout le monde se dit, mais il est fou. Il est Cabizol. Non, non, dans une pièce qu'on a jouée ensemble,
ah,
pièce
d'accord.
De Schnitzler.
On l'a reçu,
la ronde. Et je lui ai, voilà. T'as eu peur, hein. Tu t'es dit, là, il part en vrillette. Hein. Indochine vient en aide au Japon.
Oui, le groupe français a enregistré un morceau avec la chanteuse japonaise Amoe. Le titre s'appelle Un ange à ma table, une chanson de leur dernier album, mais en version japonaise. Tous les bénéfices seront reversés aux rescapés du séisme. La chanson est en vente depuis aujourd'hui, uniquement sur le site officiel d'Indochine. Voilà ce que ça donne. Voilà, Indochine version japonaise.
Merci mon Nico, à demain.
Salut.
Demandez la cause du peuple.
Le bruit est une référence de Lévi-Strauss.
Quand Hitler brûlait des livres,
face aux livres,
brûlait la pensée.
Le Goncourt venait d'être refusé par Julien Gras.
Quels sont à votre avis les plus beaux mots de la langue française ?
Face aux livres.
C'est un roman à deux voix, deux destins, deux frères séparés. Deux frères que tout rassemblait et que désormais tout sépare. C'est le très beau roman de l'évasion hallucinante de Paul, quand Jean rêve tout bas de surmonter son impuissance et sa peur des filles. C'est aujourd'hui que les cœurs se desserrent. Bonsoir Pascal Rose.
Bonsoir Pierre Lubin.
Vous avez refait le chemin du père Paul. Nous sommes au mi-temps de la Seconde Guerre mondiale, Pascal. Ouais.
Oui.
Peu près.
Oui, c'est un jeune étudiant qui a fait des journées pour être officier de réserve et qui se trouve donc engagé dans la guerre de 40 et qui se trouve fait prisonnier au moment de l'armistice et qui va essayer à 3 reprises de s'évader et finalement réussir une évasion spectaculaire du camp.
Qui est une évasion hallucinante. Mais on y reviendra un peu plus tard tout de même parce que je voudrais qu'on pose le décor de ce très beau roman. Ce sont deux destins. Il y a Jean qui est un homme libre, qui est avec sa mère, Amélie, et puis Paul donc qui tente de s'évader. C'est surtout le roman aussi, je pensais à Rêveuse bourgeoise de Drieux, c'est le roman d'une bourgeoisie industrielle qui est en train de changer.
Voilà, enfin, plus exactement, ne va pas réussir à changer. Parce qu'en fait...
Donc, il ne va pas se rendre compte que ses enfants changent.
Qui ne va pas se rendre compte aussi qu'après la guerre, la société de consommation va arriver. Et elle, cette société du textile rouennais, elle fabrique un merveilleux tissu qui s'appelle la popeline et qui est un tissu trop beau pour rentrer dans la société de consommation et dans les chemises toutes faites. Donc, c'est une espèce de valeur de la famille. Et l'idée de changer le tissu, c'est comme l'idée d'une trahison par rapport à la famille, à la France et à soi-même.
Mais Pascal Rose, il y a quand même tous ces éléments sont, un peu secrètement, ils affleurent tout de même. Cette troupe de théâtre, tous ensemble, les filles veulent autre chose.
Voilà.
Elles ont marre d'être promises à un univers un peu étriqué.
L'histoire de l'évolution du textile, c'est aussi symbolique de l'histoire de la fin d'une société. C'était en fait une société bourgeoise, catholique, provinciale, qui a été dominante en France jusqu'à, je dirais, 1968. Peut-être même on a pu voir sa fin avant. Et elle n'a pas su changer. Et au fond, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas su changer? Ce n'est peut-être pas uniquement parce que le textile s'est trouvé tout d'un coup délocalisé au Bangladesh ou en Chine, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y avait à l'intérieur de ce type de famille bourgeoise qui héritait des valeurs du travail et tout, quelque chose qui refusait d'être aimable, je dirais, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir au changement, pensant que leurs valeurs étaient absolument éternel.
J'ajoute que ce très beau livre est
supérieur.
J'ajoute que ce très beau livre est écrit, je veux dire, il claque, hein, un peu comme une machine à écrire peut claquer, mais ça vous en avez l'habitude. Je rappelle que vous avez été couronné par le Goncourt, que vous avez le Goncourt il y a quelques années. Et oui, on est à la fois dans le dialogue, dans le théâtre.
C'est un livre en fait qui brasse 3 générations, hein, parce que ça commence à peu près, enfin, en 1940 et ça va jusqu'en 2007, donc même 68 est compris dedans, parce qu'en fait, la fin de cette famille, ça va être en 1968. Et pour le pauvre père, la chose la plus atroce, c'est qu'il va avoir un fils gauchiste. Alors là, c'est non seulement il a perdu son usine, mais son fils est gauchiste. Et voilà, donc...
Vous êtes d'accord avec le côté rêveuse bourgeoisie de Drieux, qui est un livre...
Absolument. Je vous félicite d'avoir cette référence, parce que je ne pensais pas qu'on connaissait encore ce livre-là.
J'aime Drieux, et je l'ai lu jusqu'à 25 ans, j'avais toujours un Drieux dans la poche, du feu follet agile. C'est un écrivain quand même qui a bien...
Oui, et puis ce que j'aime aussi en lui, c'est cette espèce d'écriture très ramassée. Bon, je dis, il n'est absolument pas un modèle, hein, mais j'essaye en tout cas, par exemple, sur 170 pages, de brasser 3 générations avec une écriture qui s'attache à des détails extrêmement concret.
Ouais, et puis il s'est un peu gouré politiquement, quoi. Mais au moins lui, il l'a assumé. Il a dit j'ai joué, j'ai perdu, me flingue.
Oui, il y a une sorte d'honnêteté intellectuelle qu'on peut admirer. Oui.
Paul s'évade. Dans des conditions...
Tout à fait facilement. En fait, parce qu'il a
de l'esprit... De Wararuska,
Oui, alors Paul, oui, c'est extrêmement difficile, en fait, parce que le problème, c'est qu'il a toujours été considéré comme le raté de la famille. Et par rapport à son frère aîné, qui s'est évadé très facilement depuis Amiens, juste quand il a été fait prisonnier, lui, il laisse passer, parce qu'au fond, c'est toujours quelqu'un qui laisse passer, et il va se trouver emmené en Allemagne, dans des camps... Alors, je signale, ce sont des camps de prisonniers, ce ne sont pas des camps
de la mort,
de concentration, etc. Parce qu'en fait, j'ai Il y a une grande confusion parmi les gens. Pensent tous que quand on est prisonnier en Allemagne, non, on est dans un camp de concentration.
Non.
Absolument pas. L'armée française a été faite prisonnière. Et bon, donc ce sont des camps où il y a des lois. Mais quand on a plusieurs fois essayé de s'évader, on perd le droit à ces lois de protection de prisonniers et on se retrouve dans un camp de représailles, ce qui est son cas. Il se retrouve en Galicie, dans un endroit qui est tout près d'ailleurs de Treblinka, tout près du triangle de la mort, à Ravaruska.
Et c'est là qu'il voit
une évasion spectaculaire.
Il va réussir cette évasion spectaculaire et il voit ces Polonaises transformées en bétail.
Petite juive polonaise.
Un petit juif polonaise. Il voit tout cela, je vous lis. Acheter un billet sans éveiller la méfiance. Il a sur lui les marques acquises contre ses colis à Hoyerswerda et précieusement gardées. Les jambes flagellantes de fatigue autant que de trac, il laisse tomber ce seul mot au guichetier. Varsovie, prononcé à l'ukrainienne, comme il l'a entendu dans les commandos de travail. Et le billet est dans ses mains. Chaque étape franchie est miraculeuse. Il lui semble que tout crie sur lui, qu'il est un prisonnier évadé, mal vêtu, sans bagages. Surtout quand un soldat allemand le regarde avec insistance, quitte son groupe pour venir vers lui. Du Komst aus Ravaruska, nein, Ravaruska, nein, Varsovie. Varsovie. L'espoir s'accroche à ce petit mot de Varsovie. L'Allemand le tire par le bras, le pousse brutalement dans le bureau du chef de gare, appelle le camp, crie « Allô, allô ?» Et là, je m'arrête. Et il va s'en sortir.
Il va s'en sortir. Et il va finalement devenir le patron de l'usine. Il va hériter de son père, qu'il a toujours traité comme un raté. Mais au fond... Le pauvre, il est peut-être raté, mais en tout cas, s'il va se trouver heurté à tout ce qui s'est passé après-guerre, l'arrivée de la société de consommation, dont on ne voudra plus de ses belles chemises. Je ne sais pas en quoi est votre chemise, mon cher Jean-Louis Basse, mais autrefois, les chemises étaient
non
dans un tissu où il n'y avait pas de fibres synthétiques et eux, ils
c'est
se
un
sont
coton
battus
frais
pour ça. Est-ce que c'est du coton égyptien?
C'est un coton frais, non, ça je ne sais pas. Pascal Rose, aujourd'hui, les cœurs se desserrent. Nous écouterons un texte de Jean-Jacques Goldman, je pense, j'espère qu'il vous fera plaisir et qui résume assez bien les destins voulus ou subis pendant cette période, durant cette période. Je voudrais qu'on reste sur la période et qu'on laisse au lecteur aller au bout de 68. Moi, j'aimerais bien qu'on reste tout de même sur cette période-là qui a été une période aussi à la fois de séduction, d'amour, il y a des jeux amoureux, il y a des choix qui sont faits par des familles. C'est aussi ça, cette France que vous avez voulu décrire, Pascal Rose.
Et ben en fait, à l'intérieur de la famille, il se trouve que c'est une famille où autrefois où il y avait des dizaines d'enfants. Et là, cette famille se trouve tout d'un coup réduite à deux frères. Et entre les deux frères, il y a une rivalité qui est une rivalité qui remonte à Caïn et Abel. Hein. Caïn et Abel, la jalousie en tête de la Bible, je dirais. Et une femme va se trouver au milieu d'eux, elle en aime un, et elle va se trouver, je dirais, entre guillemets, violée par l'autre. Et puis, fille, mère. Et à l'époque, c'est une catastrophe. Et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer. L'évolution, la douceur, finalement, que maintenant on réserve au sort des femmes. Et la dureté à cette époque, être fille, mère, c'était catastrophique.
C'était une catastrophe.
Et donc, elle est obligée de se marier à toute vitesse. Et tout le désir de théâtre, de bonheur qui habitait cette jeune femme se trouve... saquée net d'un coup. Et elle l'accepte. Ouais. Elle ne se bat pas. Elle ne se bat pas.
Elle est dans une espèce de soumission et aussi de regret de ne pas avoir...
D'impuissance.
D'avoir fait ce dont elle rêvait, c'est-à-dire une vie pour l'art.
Oui, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu parce qu'un soir, elle rêvait d'amour et elle est maladroite, elle est ignorante, elle est presque une noix blanche. Et bon, tout d'un coup, un des deux frères, pas celui qu'elle aime, mais l'autre, commence a du désir pour elle, et elle croit que ça y est. Et elle se... Voilà, elle sait pas, elle fait l'amour sans le savoir.
Le personnage
sans
le
savoir, mais vous savez, c'était, je suppose, assez fréquent.
Le personnage de Jean est un personnage tragique, Pascal Rose.
Il a une forme d'impuissance, parce qu'il a beaucoup de qualités artistiques. Il essaye de mener le petit groupe qui est autour de lui dans le sillage de Jacques Brenner, qui est quelqu'un qui a vraiment existé.
On
qui
connaît
a créé...
le journal de Jacques Brenner.
Voilà, c'est ça, qui a créé les étudiants associés à Rouen. Je me suis servi de cette histoire pour insérer mon petit groupe dans les étudiants associés. Et c'était un groupe de jeunes gens qui voulaient effectivement que des désirs de bonheur viennent mettre à mal cette société qui était fondée sur le travail et sur la tradition des valeurs bourgeoises où finalement il fallait rendre service au capital qu'on héritait de ses parents. Voilà.
Le capital, disait Léo Ferré, qui joue au dé notre royaume. Vous dites, vous écrivez, il y a de très belles pages sur le milieu. Le milieu.
Le milieu. Mais autrefois, ça, on disait,
on est d'un bon milieu. Il est d'un bon milieu.
Et maintenant,
on n'est pas du même milieu.
Voilà.
Pourquoi? Dites-moi, c'est vous la grammairienne, là. Comment c'est que ce mot se soit imposé?
Alors, le milieu, je remarque, c'est simplement un mot d'origine biologique. Alors que maintenant, on parle tellement, on parle plus de milieu. On parle de réseau. On dit, j'ai un réseau, je suis dans un réseau. Et
absolument.
Un réseau, c'est plus biologique.
C'est scientifique.
C'est scientifique. Mais c'est fragile, ça se défait, ça. Voilà, bon, ouais. Mais les choses ont changé, mon cher Jean-Louis. Les choses ont beaucoup changé. Je ne sais pas s'il faut les regretter, mais ce mode de vie, en tout cas, de cette société, de cette bourgeoisie-là, il est out. Et Sarkozy, on est un très bon exemple pour revenir à Émile Plenel tout à l'heure.
Je creuserai, ce sera ma dernière question, après ce texte musical très beau que j'ai choisi pour vous. C'est Jean-Jacques Goldman, Si j'étais né en 17. On l'écoute.
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sous les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Si j'avais été allemand, bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance, nourri de rêves de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, l'arme au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir ton humain? Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur.
Si j'étais né en 17, Jean-Jacques Goldman, aujourd'hui les cœurs se desserrent. Chez Stock, Pascal Rose, ma dernière question, je pense, va essayer de prolonger un petit peu le parfum de cet entretien. Finalement, ce que vous nous dites, on est passé, grosso modo, enfin, Paul et Jean et Amélie, enfin, et Jacqueline et Babette et Béatrice sont passés d'un temps où la bourgeoisie aimait l'école normale supérieure à un temps où elle préfère Dolce et Gabbana. On est toujours un peu nuls quand on résume, mais c'est ça.
Oui, enfin même...
On est passé du savoir à autre chose.
Alors, je dirais même que c'est presque pire que ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait une méfiance pour l'école normale supérieure dans ce type de bourgeoisie. Je pense que...
Oui, mais elle accueillait les artistes, elle les faisait
oui,
dans
elle
son
accueillait
salon.
Dans son salon, à condition qu'il décore d'une certaine façon. C'est pourquoi Jean n'arrive pas à devenir un vrai peintre, alors qu'il a probablement l'étoffe de l'être. Mais on sert avant tout le capital qu'on a hérité et qu'on doit transmettre. En fait, c'est ça. Et l'épanouissement personnel... On s'en fout. Un enfant qui veut justement devenir, peut-être faire l'école normale, devenir un professeur, mais sortir de ce milieu dans lequel il baigne, il est né, on le regarde d'un air bizarre.
Merci Pascal Rose d'être venu dans Bienvenue. Pour aujourd'hui, les cœurs se desserrent. C'est superbe et c'est chez Stock. On se dit à bientôt.
Merci.
Salut Pascal.
Au revoir.
Europe 1.
Bienvenue chez Basse.
Alors c'est ça la question de l'identité. Y a-t-il des modes de vie incompatibles?
L'histoire d'un soir.
À la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens
à la maison. Ah oui, je sais bien, ça paraît facile, Laurent Cabrol, mais faut y penser. Merci Marco. Faut y penser. À ce Claude François. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Mon camarade d'Europe 1. Je dis mon camarade et il sait que c'est sincère. Envers et contre tous. Et si la Terre s'en sortait toute seule, c'est au Cherche Midi. Peut-être que tu te bouges un peu les fesses et que tu viens me parler d'un de tes livres en soir. Hein,
ouais,
en
oui, face. Non, mais...
Et je salue Emmanuel Leroy-Ladurie. Bonsoir Monsieur Leroy-Ladurie. Historien qu'on ne présente plus, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Auteur de Histoire du climat depuis l'an 1000, c'est chez Flammarion. Laurent Cabrol, tout d'abord. d'abord. Le printemps, moi, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, là, c'est vrai qu'il y a des, tu sais, quelquefois il faut se baisser, on ramasse les sujets, ouais, plutôt que de chercher dans les limbes. Bon,
quand on regarde le ciel, on se dit,
c'est le jour printemps du printemps, je vais faire l'histoire du printemps. D'abord, le printemps est-il à l'heure?
Oui, cette année, il est à l'heure, enfin, en général, il est toujours à l'heure, puisqu'il arrive sur le plan calendaire ou sur le plan astronomique, toujours le même moment, mais là où souvent il n'est pas en adéquation, c'est avec la météo. Et là, cette année, on peut parler d'une météo qui est en adéquation avec le calendrier ou avec l'astronomie.
Parce qu'il y a des années où ce n'est pas, la même mayonnaise.
Là, nous avons quand même un temps agréable, un temps froid le matin. Parce que le printemps, c'est ce qui est fabuleux dans cette saison. Je dis toujours, le printemps n'existe pas, c'est l'invention des poètes et des jardiniers. Parce qu'il est vrai qu'en météo, le printemps n'est pas une saison très marquée. C'est mi-hiver, mi-été. C'est-à-dire qu'il y a encore un relent d'hiver et un prémisse d'été. On sent l'été arriver et de temps en temps, on a des bouffées hivernales. Donc, on est dans cette intersaison qui marie les deux. C'est pourquoi il y a des à-coups.
Ouais.
Et c'est la raison pour laquelle on est toujours surpris par les brusques revirements de ce printemps.
Emmanuel Leroy-Ladurie nous dira dans un instant, il est au téléphone, il nous écoute et il va un petit peu creuser, tu vois, l'affaire du printemps jusqu'à l'été d'ailleurs, et il nous parlera de ces mouvements, coïncidence ou pas, historiques, révolutionnaires, qui coïncident avec le printemps. Mais je creuse encore avec toi, Laurent. Je me souviens très bien d'une discussion il y a une quinzaine d'années, et là je veux dire que tu avais raison, tu me disais calmez-vous avec le réchauffement, etc. Vous verrez que les hivers seront plus froids. On le constate, c'est vrai. Et tu m'avais davantage parlé. À l'époque, je me rappelle d'une discussion sur le trottoir, là, c'était il y a une quinzaine d'années, je te revois et tu me disais, il faudra surtout insister sur les différences, les amplitudes, hein,
oui,
les différences, que l'évolution vraiment linéaire.
Les mouvements excessifs de la météo, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'amplitude extraordinaire des événements, c'est-à-dire beaucoup plus de pluie, des pluies torrentielles, beaucoup plus de neige, beaucoup plus de froid, etc. Ce sont ces événements, disons, un peu en accent circonflexe, qui sont les plus nombreux aujourd'hui.
Alors, Emmanuel Leroy-Ladurie, il y a un printemps méditerranéen avec toutes ces révolutions qui existent. Est-ce que l'histoire confirme un peu ces tendances parfois entre printemps et échauffement social?
Oui, effectivement, dans une certaine mesure. C'est-à-dire, par exemple, la Révolution française a 10 000 causes, la bourgeoisie, la noblesse libérale, enfin, tout ce que Furet et Soboul nous ont appris. Mais par ailleurs, il y a bien un événement, un printemps trop chaud en 1788, suivi d'un été avec des intempéries et très chaud lui-même, précédé de pluie d'automne. Et résultat, la récolte a été médiocre. Personne n'est mort, mais tout le monde était dans la rue.
Ouais.
Un peu comme ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui avec la hausse des prix d'abord.
Ouais, la révolution de 1848, c'est tout au printemps aussi.
Alors oui, j'allais parler de 1848 aussi avec Emmanuel Leroy-Ladurie. 1848, rebelote.
Alors 1848, effectivement, c'est surtout, disons, 1846. C'est une année d'échaudage, c'est une des plus années les plus chaudes qu'on ait connues dans l'hémisphère d'or à toute époque, disons. Et d'autre part, il y a la maladie de la pomme de terre qui n'a rien à voir avec le printemps. Et les deux ensemble, l'échaudage, la destruction de 30% de la récolte de blé, font que les gens ne meurent pas de faim, mais ils achètent sans arrêt du pain, donc le textile entre en chômage. Et il y a au total 200 000 morts sur peut-être 35 millions de Français. Peut-être pas nécessairement mort de faim, mais mort de mauvaise nourriture, etc. Et aussi de misère due au chômage.
Ce que dit Emmanuel Leroy-Ladurie est passionnant, et c'est justement parce que c'est passionnant que je crois qu'il s'éloigne un petit peu de son... Parce qu'il y a du fading. Laurent,
ce qui est curieux, justement, c'est que le printemps, qui est en principe, c'est pour nous tous le renouveau, c'est l'espérance, c'est l'espoir, la fin de l'hiver, c'est le corps...
C'est l'amour.
C'est l'amour. Et on est en train de... Vraiment, on attend cette saison. Et c'est précisément à cette époque-là que les révolutions se passent, en tout cas les hommes se révoltent. Là, le printemps de Prague, c'était aussi pendant cette période. Le printemps arabe que nous vivons en ce moment, du monde arabe, c'est aussi. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un mouvement au fond de nous-mêmes qui fait que ça va au-delà de la saison proprement dite.
Oui, enfin bon, Solidarność et Gdansk, ils ont fichu la trouille à Jaruzelski et aux communistes. C'était pas le printemps, hein. Ils caillaient à Gdansk.
Non, mais c'est
entre...
janvier et juin. Le printemps de Prague, c'est entre janvier et juin.
Bien sûr. Question Laurent Cabrol. Il y a une surabondance d'informations aujourd'hui. On le disait encore, on le dit souvent dans nos débats. Le public est de mieux en mieux informé. Est-ce que c'est pas compliqué pour un homme comme toi qui fait la météo souvent? Est-ce que tu arrives, est-ce que vous réussissez à avoir des données très précises qui font que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec ce que le public croit savoir? Comme celui qui va chez le médecin et qui dit, vous savez, moi, je vais sur Internet, je sais comment me soigner.
Moi, je suis heureux que le public et que les auditeurs, par exemple, d'Europe 1, fassent leur propre prévision météo. C'est-à-dire que nous, on leur donne les grandes tendances et qu'on doit être notre propre météorologue. Parce que De Gaulle disait, la France est ingérable, ingouvernable parce qu'il y a 460 formes de fromage. J'ai dit, la France est ingouvernable parce qu'il y a 460 sortes de microclimats. C'est-à-dire que chacun a son climat. Et je suis heureux que chacun, aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au progrès, justement, de la météo, s'approprie la météo et fasse sa propre prévision.
Et la météo a des armes qu'elle n'avait, des outils qu'elle n'avait pas.
Oui, c'est magnifique. J'ai commencé la météo à Europe 1, je donnais les prévisions à 10 jours et je les donnais avec des pincettes en captant les Américains qui donnaient à leur marine de guerre qui croisait au large de la France les prévisions à 10 jours. Et là, on captait les prévisions des Américains, de la marine américaine et on les donnait aux auditeurs d'Europe 1. Tu te rends compte, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, les prévisions à 10 jours, on les a quotidiennement, on nous les donne, on nous les fournit. Moi, je peux les donner aux auditeurs tous les jours. Ouais. Donc, on a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, notre grand challenge, c'est de dire quel temps fera-t-il dans 3 mois ? Quel temps sera celui de notre été ? Et là encore, on est dans le plus grand mystère. Mais on s'en approche.
Emmanuel Leroy-Ladurie est avec nous ce soir et qui a écrit cette fameuse histoire du climat depuis l'an 1000, l'extraordinaire somme climatique. Un autre moment fort du printemps qui court jusqu'à l'été, Emmanuel ?
Eh bien, il y a eu par exemple, je crois, 1976.
Très chaud.
Une sécheresse qui commence dès le mois de décembre, et un printemps, un été très chaud, et vraiment, c'est le moment où Jean Gabin a été obligé de vendre la ferme magnifique qu'il avait créée, parce qu'il a été victime de la sécheresse, et il a fait une dépression nerveuse, parce que les syndicats de paysans ont refusé de lui donner la subvention, enfin la réparation qu'il aurait méritée au titre de ses investissements immenses dans l'agriculture.
Ouais. Laurent Cabrol, 76 est une date très importante.
Laurent Ladurie, qui est un monsieur que j'admire par-dessus tout, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien indiqué que, par exemple, le printemps fabrique l'été. C'est-à-dire que c'est la sécheresse du printemps qui fabrique la sécheresse de l'été. En ce moment, par exemple, on a sur la moitié nord de la France un temps sec, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Et ça, c'est inquiétant pour l'été qui vient. Alors que sur la moitié sud, on a beaucoup d'eau, beaucoup plu, il a beaucoup plu. Et là, on est plus rassuré pour l'été qui arrive.
Bon, alors j'insiste, ça veut dire que si on n'a pas un printemps, je veux dire digne de ce nom, c'est fichu, ça bascule vers un été qui ne sera pas à la
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on prépare, parce que tu sais que chaque goutte de pluie qui tombe, avant que la végétation ne se réveille, chaque goutte de pluie va dans le sous-sol et remplit les nappes phréatiques. Dès que la nature se réveille, elle a soif, elle a besoin d'eau. Et chaque goutte de pluie qui tombe est absorbée par la nature. Donc à partir de maintenant, comme la nature s'éveille, comme les feuilles commencent à arriver, les arbres et les fleurs, chaque goutte de pluie sera absorbée. Et donc elle n'ira pas dans le sous-sol. Donc il faut que les réserves d'eau se constituent avant la période que nous vivons en ce moment.
Ouais. C'est Emmanuel qui aura le dernier mot, Emmanuel Leroy-Ladurie. Les historiens aujourd'hui que vous êtes, hein, et d'autres, vous parliez de Sauboul, on pourrait citer les Mathiez, bien sûr les Furel, les Lefebvre, les Claude Mazoric, sur la Révolution française, on peut considérer que la météo fait partie de l'explication finale du soulèvement ?
Sans aucun doute, elle n'est pas. C'est l'allumette, c'est l'étincelle qui a déclenché ce feu général. Les causes, c'était un tsunami, si vous voulez, la révolution. Ouais. Donc les causes se préparaient depuis longtemps, mais si ça a eu lieu très précisément en 1789, c'est parce que 1788, pour des causes notamment, entre autres de sécheresse de printemps, avait été une mauvaise année agricole. Donc effectivement, pratiquement personne n'en est mort, on n'était plus au temps des famines, la France avait fait de grands progrès. Mais les gens étaient dans la rue, et ils sont restés dans la rue, enfin les gens, un certain nombre de gens, depuis le, mettons, juillet 88 jusqu'au 14 juillet, et encore le 14 juillet 89, le 13 juillet, la veille, il y a eu deux énormes émeutes de subsistance à Paris.
Merci infiniment, Emmanuel Leroy-Ladurie. Voilà qui était passionnant. Et Laurent Cabrol, ce qui va être passionnant, c'est la soirée du jasmin, hein, et la fête de la jeunesse, car Wendy Bouchard vous a préparé quelque chose, pas piqué des hannetons. Je t'embrasse, Wendy, je te donne le flambeau.
Je t'en remercie.
Marion est venue me voir tout à l'heure, elle m'a tout expliqué. Je sais que tu es avec la jeunesse tunisienne, et je te félicite.
Bah c'est gentil. Voilà. Et le printemps que vous évoquez n'est pas loin. Il est même à portée de main et on va le conjuguer aux couleurs d'Europe 1, aux couleurs de la Tunisie. Ça sera Radio Bleu Rouge, hein, ce soir. Drapeau tunisien, drapeau européen. Pour vous ce soir, il est 22h.